Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
L'intensité de France-Maroc, tout à l'heure, vous allez voir, vous allez le vivre juste avant, sur BFM Business, dans Tech & Co, la quotidienne.
Ça diffuse en direct
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour appâter le chaland, mesdames, messieurs? Bonsoir Cédric Ingrand.
Salut François Sorel.
Comment ça va Cédric?
Écoute, comme dans un rêve, je ne peux pas te laisser partir en vacances sans qu'on se voit quand même.
Mais c'est vrai, et ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Cédric Ingrand, qui est directeur général de Heavyweight Studio et qui est journaliste tech et que vous avez connu à l'époque de TF1 et de LCI, c'était il y a quelques années. Un grand merci d'être là, Cédric. À tes côtés, c'est Jean-Baptiste Kampf. Salut Jean-Baptiste.
Bonjour.
Fondateur de Kyber. Tout va bien chez Kyber?
Très bien, parfait.
Bon, si vous ne saviez pas ce qu'est Kyber, les replays de Tech & Co, tu nous expliquais ça il y a quelques semaines. Tout va bien, ça va? Ça décolle.
Tout va bien, c'était le Rise Summit et c'était Machina ces trois derniers jours.
Oui, donc, beaucoup d'événements IA en ce moment sur Paris.
Surtout, en fait, étonnamment, Rise Summit, qui n'était pas forcément l'événement IA, a réussi à avoir une dimension hyper internationale. Donc, vraiment, il y a énormément, plus de la moitié des gens que j'ai vus étaient des Américains. Donc, ça arrive comme un des événements IA de référence mondiale et je suis assez étonné, mais
tant mieux.
Cool.
Tant mieux.
Super bien. Et pour nous, c'était génial.
Christophe Honnête est avec nous aussi ce soir. Salut Christophe.
Bonsoir François.
Senior Advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Et bien sûr, Frédéric Simorel. Pourquoi tiens?
Simorel.
Oui, bon, on mélange Anthony Morel. C'est la fin de la saison. Là, on est en roue libre ce soir. Franchement, si vous avez un magnétoscope enregistré, parce que à mon avis, ça risque de déraper un peu ce soir. Magnétoscope, on explique ce que c'est pour les plus jeunes. C'était un appareil incroyable. On mettait des cassettes dedans. On appuyait sur play et rec et on enregistrait l'image et le son.
Il y avait plusieurs normes V2000.
Faut que t'expliques ce que c'est une cassette en fait.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. V2000... Une cassette, c'était un truc avec une bande qui tourne à l'intérieur.
Une bande, c'est quoi?
C'est V2000, VHS et puis Betamax.
Et Betamax. Voilà. Ben voilà. Écoutez, c'est pour vous montrer que évidemment la jeunesse est représentée sur ce plateau. C'était aussi ça Tech & Co à l'époque. Enfin, ça n'existait pas, mais c'était de la tech. Bon, plein de sujets passionnants ce soir avec Frédéric, Jean-Baptiste, Cédric et Christophe. Et on va commencer par Mistral AI qui se lance dans la robotique. Le champion français de l'intelligence artificielle a présenté hier un nouveau modèle censé permettre à des robots de se déplacer dans des environnements complexes. Et notamment, vous le savez, le business, ce sera en entreprise. Après avoir appris aux machines à parler, Mistral veut désormais leur donner un corps. Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin. On l'écoute.
Oui, c'est ça. Faut imaginer un humanoïde qui se balade dans l'open space et qui vous apporte votre café à votre bureau. C'est l'une des démonstrations mises en avant par Mistral pour présenter Robostral Navigate. C'est le nom de ce modèle conçu pour servir de cerveau à ces robots, si l'on peut dire. Le rôle de cette IA, ça va être de permettre aux robots, de se déplacer de manière très fluide dans des environnements compliqués, des bureaux, des bâtiments résidentiels, des commerces, y compris s'il ne les a jamais vus auparavant. Concrètement, on va lui parler comme on parle à un collègue en langage naturel et il va comprendre la consigne, analyser l'environnement qui l'entoure avec des caméras embarquées, naviguer au milieu des humains, au milieu des obstacles et réaliser la tâche qu'on lui a demandé de manière autonome. Alors les applications sont nombreuses, on peut penser à la logistique, à l'hôtellerie, les robots de livraison également. Et pour Mistral, c'est une première incursion dans ce que certains considèrent comme la prochaine frontière de l'intelligence artificielle. C'est ce que dit notamment Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, c'est-à-dire l'IA qui va sortir de l'écran des modèles qui ne se contente plus de gérer du texte et des images, mais qui vont interagir avec le monde physique. Mistral y voit la première étape vers un agent incarné unifié, c'est-à-dire des robots qui seraient capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Et c'est une nouvelle illustration. Peut-être que la France a une carte à jouer. On parle beaucoup de Vandercraft, dont les robots maintenant travaillent dans les usines de Renault. On peut penser aussi à Amilabs, la start-up de Yann Lequin, avec ses World Model qui, là encore, veut faire sortir l'IA du monde virtuel et la faire entrer dans le monde physique, dans le monde réel. Et bien, avec Mistral, on a une nouvelle chance. Alors, face quand même à des géants américains et chinois, je pense à Figure AI ou encore à Unitree, pour ne citer que les plus connus.
Voilà, et on peut parler aussi d'Optimus, le robot d'Elon Musk et de Tesla. Voilà, Mistral donc qui se lance dans cette nouvelle aventure, donc une IA pour les robots. Tiens, on va commencer par JB, tu suis un peu tout ça, j'imagine.
Évidemment, c'est très cool. Il y a quelques petites remarques quand même, c'est que contrairement à ce qu'on fait pas mal de fois à Mistral, là on n'a pas l'air d'être dans un modèle open weight, hein, ça a l'air d'être un modèle complètement propriétaire.
D'accord.
Attention, hein, c'est Robostral Navigate, hein, c'est pas un modèle qui gère tout le robot, hein, c'est vraiment être capable de se déplacer sans carte, hein, ce qu'on appelle le mapless, et le benchmark.
Avec une caméra RGB, je crois. Il n'y a pas de lidar. Hein,
d'après voilà. Une simple caméra.
Une simple caméra. Et il y a des benchmarks. Nous avons un benchmark qui s'appelle R2R, c'est Room to Room. Les résultats ne sont pas les meilleurs, mais ce n'est pas ridicule.
C'est correct,
et surtout, il semblerait que le modèle soit assez petit, donc c'est assez intéressant. Je vois tout de suite les gens qui sont en train de me raconter que ça y est, Mistral fait de l'IA pour les robots. Là, c'est une des tâches des robots, mais en fait, quand tu regardes un robot, il y a quand même beaucoup, beaucoup de tâches. Et en tout cas, c'est là, aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on va se retrouver avec un modèle pour naviguer, un modèle pour le bras, un modèle pour faire quelque chose. Sachant que la tâche la plus difficile, hein, c'est faire la cuisine, parce que vous regardez le nombre de petites tâches que vous faites. Quand vous faites la cuisine, entre chauffer de l'eau, le mettre au micro-ondes, ouvrir une porte, ouvrir le frigo, aller récupérer des choses, vous allez voir, en fait, si vous décomposez tout ce que vous faites, c'est très, très compliqué. Et donc là, on n'est quand même pas sur un modèle qui va faire tout ça, mais c'est très cool que Mistral aille sur ce sujet-là. On va voir ce qu'ils font après.
Mais c'est cool, mais c'est intelligent surtout. Parce qu'évidemment, jusque-là, ils étaient sur la concurrence frontale avec les autres modèles de langage, concurrence assez dure. Là, ils arrivent sur un marché, on va dire, où d'abord, c'est que du B2B, clairement. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent à prendre, ce qui est plutôt intelligent quand on est Mistral. Et puis, alors j'ai vu quand même, il y a des chouettes avancées, outre le fait que, de fait, tu n'as pas besoin d'avoir un lidar ou d'avoir du multicaméra pour que ça marche. Ça marche avec une pauvre caméra à 10 euros. Ils ont entraîné le modèle sur des contenus simulés. C'est très français, hein, tu apprends à marcher avant d'aller dans le couloir. Tu apprends un robot qui n'a jamais vu un couloir. Et ce qui réduit en plus le coût de l'apprentissage. Non, c'est chouette. En tout cas, c'est une diversification bienvenue pour Mistral, qui en frontal, face à Claude, OpenAI et les autres, forcément, pouvait peiner un peu, avait la souveraineté comme atout, mais ça ne peut pas être le seul atout.
Voilà, après, moi, je ne veux pas doucher cet enthousiasme, qui est plutôt positif, et c'est très bien, mais on est loin d'un robot autonome qui pourrait faire la cuisine, qui pourrait faire le ménage.
Mais c'est vrai pour tout le monde, hein, je rappelle.
Il n'y a pas une boîte qui est un peu plus en avance.
Beaucoup de démonstrations qu'on a vues au CES, c'est radiocommandé. Hein.
Exactement, exactement.
Les robots boxeurs,
mais on voit qu'il y a des startups qui commencent à apprendre, qui ont des IA, qui apprennent les gestes que fait un humain. Mais le robot, en tout cas, il y a des caméras qui comprennent ces gestes-là et qui après arrivent à les reproduire.
Oui, juste la gestion de la main, c'est un budget et c'est une start-up en soi qui va valoir plusieurs milliards.
Juste la main
et l'appréhension.
Même de l'équilibre. Alors
et là, pas la compréhension de ce que fait la main.
On n'en est même pas là.
Il faut comprendre, les robots, c'est beaucoup, 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 beaucoup de tech. C'est sûr, tu peux acheter une ITRI à 8000 euros, 5000 euros, mais il fera quand même pas grand-chose.
Ouais.
Sauf si tu le contrôles par Kyber. Allez.
Oh là 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 là, le petit hack comme ça. C'est beau, magnifique.
Non, mais là-dedans, ce qu'il faut voir aussi, c'est toute la partie équilibre. Parce qu'un robot, ça tient pas comme nous, naturellement, notre cerveau qui
calcule. Là, t'as vu, ils sont sur roulette, hein, celui-là.
Ils sont sur roulette. C'est-à-dire, s'il porte un poids, même sur roulette, il va se pencher en avant. Est-ce que le poids en bas, la base en bas va être suffisamment. C'est le principe du parasol. Hein, est-ce que la base en bas est suffisamment lourde pour. Justement, si on lui donne un poids lourd, là, c'est un café, ça va. Et après, c'est vrai que là, c'est ce que tu dis, Cédric, il a entraîné surtout dans des données synthétiques, enfin des données virtuelles. Faut voir ce que ça donne en environnement réel où la lumière change, il y a des humains qui se baladent au milieu, donc il va falloir tout ça. Maintenant.
Des enfants.
Mais maintenant, il faut saluer. Ce qu'il faut saluer, c'est que ça y est, on se lance et on n'hésite pas à.
Et tu noteras que la roue, c'est aussi ce que fait Enchanted Tools avec Mirokai.
Mais bien sûr. On peut imaginer. Plein de partenariats.
La bipédie est quelque chose de finalement assez compliqué à gérer et t'en as pas forcément besoin.
Mais tu sais ce que m'a dit Jean-Louis Costanza là, de Wondercraft, là, il m'a dit que pareil, les roulettes c'est assez complet. Enfin, quand je prenais l'exemple du parasol, c'est vraiment ça. Il faut vraiment un poids assez lourd en bas pour porter des
parts. Il faut avoir un centre de gravité assez bas.
Pas pour le café, hein, Wondercraft c'est porter
si
des.
Si jamais t'as fait du Segway, en fait, tu l'as vite vu.
Voilà.
En fait.
Donc
en fait,
c'est lourd un Segway. Hein.
C'est lourd un Segway. Ouais. Et pour cette raison, d'ailleurs, hein, c'est parce qu'en fait, pour avoir ta stabilité, il faut te mettre du poids. Mais évidemment, plus tu mets du poids, moins plus c'est coûteux de se déplacer, moins t'as de batterie. Donc il y a beaucoup en fait de d'approximations et de choix à faire qui sont pas du tout évidents, et on n'y est pas encore, mais ça va venir, hein. Et en tout cas ça accélère très très vite, ça c'est sûr.
Et c'est modèle open source, hein, donc du coup ça veut dire que c'est assez ouvert, a priori c'est ouvert pour que d'autres viennent greffer leurs applications dessus.
Christophe.
Alors, ça, Jean-Baptiste n'est pas tout à fait d'accord avec ça, visiblement. Il a envoyé une petite pique là-dessus tout à l'heure, sur le modèle OpenWeight.
Nice. Mais on le laisse un peu mariner. Fais ton explication.
Donc, je vais prendre le risque de me lancer sur le sujet où je ne suis pas vraiment spécialiste. Donc, je vais plutôt en termes de positionnement de l'entreprise. Je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a vu Mistral arriver. Bon, avec le chat, je crois que tout le monde a un peu oublié le fait que ça pouvait effectivement se positionner directement par rapport aux interfaces conversationnelles. Donc, ils ont fait un virage, comme tu le disais, vers le B2B. Donc ça, c'est bien. Plutôt vers l'industrie, puisqu'ils se sont engagés avec des modèles de développement qui consistent à aider les clients à mettre en œuvre des modèles d'IA et des solutions IA un peu entre guillemets à la palantir chez les clients avec un nombre limité de grands comptes. Donc ça a du sens pour eux de montrer qu'ils continuent à être dans une démarche d'innovation. Tout le monde perçoit que la prochaine frontière est la robotique, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut percevoir de l'extérieur, ça je veux bien croire. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Le fait de se positionner également avec une technologie sans LiDAR, mais avec une caméra toute simple qui voilà, a pris un modèle simulé, mais qui apparemment peut se réentraîner dans un contexte bon, qui fait qu'on pourra peut-être pas l'acheter comme ça, et ça marchera, il y aura un peu d'accompagnement
d'accompagnement. Il manque juste un truc dessus, c'est le bouton, enfin là c'est les chinois, enfin c'est visiblement c'est un robot chinois, c'est le bouton d'arrêt, parce que oui, mais c'est obligatoire en France.
L'autre chose qui me paraît intéressante, c'est qu'ils ont pas une stratégie qui consiste à développer eux-mêmes des robots, mais à plutôt se positionner pour développer une plateforme logicielle.
Non, là je parlais du robot mécanique, ouais. Ils sont pas entre guillemets impliqués là-dedans, c'est aux Chinois de mon côté.
Bon, après, moi, ce que je vois, c'est que Nvidia, d'autres acteurs sont très actifs aussi sur cette vision d'arriver à développer une couche logicielle sur laquelle la robotique va pouvoir se développer. Donc, ils s'adressent quand même à un marché ultra compétitif, mais peut-être ils peuvent autour de ça embarquer sur certaines applications verticales, peut-être plus simples, des acteurs européens, tu vois, qui pourraient développer du hardware autour.
Hein, ils circulent dans le. Il va cartographier un peu les bureaux, tu vois, selon chez qui il est utilisé, si les données peuvent rester en France.
Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que Mistral, ils ont quand même pas mal travaillé sur leur OCR, hein, qui est un très très bon OCR. Ouais. Ils ont pas mal travaillé sur Voxtral, hein, qui était leur partie voix. Donc en fait, tu vois qu'ils se diversifient pas mal sur les types de modèles. Et en fait, il y a plein de besoins, en fait, parce qu'on va avoir pas forcément un modèle qui fait tout, mais plein de modèles spécialisés pour des tâches spécialisées, de la voix, de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de vidéo, etc.
Alors évidemment, ça fait rêver, hein, ces robots qui pourraient être demain dans les usines, qui sont déjà dans les usines, mais on voit que là, on essaie de franchir un nouveau cap.
Ouais, mais il faut vraiment que, enfin, rappeler ce que je dis, on est dans des monotâches.
Mais bien sûr, vraiment, non, mais ce que je veux dire par là, c'est quand on voit on va dire encore la progression possible de tous ces trucs-là, on se dit quand même que l'être humain est une machine incroyable. C'est vrai que.
Alors surtout, tu vas faire le calcul de quelle est ta consommation d'énergie en tant qu'humain,
mais bien sûr,
et de ton cerveau, et la consommation d'énergie de ton cerveau, et là tu vas faire ah ouais quand même.
Le mec qui a inventé ça, il est pas mal quand même.
C'est quand même pas mal fait.
C'est pas mal foutu, hein.
Parce que quand tu regardes combien ça consomme une H100, c'est un kilowatt.
Non mais et puis j'imagine que l'IA
si ton cerveau consomme un kilowatt, on a un petit souci.
L'IA doit calculer aussi toute cette consommation d'énergie, puis piloter tous ces petits robots. Enfin là, ça doit être une trentaine de petits mécanismes pour bouger un peu tout ça, donc je pense que voilà, l'IA va piloter tout ça,
bon, voilà, donc mais c'est plutôt, plutôt positif.
Ouais, alors,
tu fais un peu le ronchon, JB.
Pas du tout. Regarde une main. Ouais. Regarde combien tu as d'articulations. Regarde combien tu as de cerveau moteur. Ouais. C'est pas 20, c'est 100 que tu dois avoir sur un robot.
Mais
il a une pince, ok. Mais
sur les Rendercraft, ils en ont une quarantaine, je crois, 40-45. Et puis là, je voyais, comme il est monté sur roue, il n'a pas tout le système
d'accord,
de jambes.
D'accord, mais en fait, tu en vides beaucoup plus. Et en fait, c'est un vrai problème parce que ça coûte très cher. Aujourd'hui, la partie moteur, en fait, c'est quasiment un tiers, voire la moitié du prix d'un robot.
C'est,
en fait.
C'est pas Optimus qui est plutôt en avance là-dessus, parce que moi, je vois des vidéos de robots Optimus qui arrivent à prendre délicatement des œufs, des vers, etc., etc.
À quel prix? Moi, je te fais un super moteur. Il coûtera 1000 euros le moteur.
Non, mais à quel prix? Après, bon, on sait que ça coûte cher aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça coûtera 5 fois moins cher, etc.
Tu vois, par exemple, le prix des cerveaux moteurs.
C'est-à-dire que techniquement, on arrive à le faire, ça coûte très cher.
Bah, tu noteras, le prix des cerveaux moteurs, c'est quelque chose qui descend relativement peu. Et c'est un vrai sujet.
Un bras robotique, c'est enfin hors doigt articulé. C'est t'as six moteurs déjà. Juste le truc que je pince, je prends. Donc après tu rajoutes pour la main, tu rajoutes la consommation électrique, tu as. Mm-hmm.
Et ben voilà. Écoutez, donc
on est très efficace en énergie. Ouais. Nous les humains.
C'est ça, c'est ça. Non, en mais cas, c'est, par rapport à je ça. Trouve que c'est intéressant de se dire que finalement, quand on compare un humain à ce que fait aujourd'hui le nec plus ultra de la technologie, on est une machine qui est inégalable pour l'instant. C'est quand même assez vertigineux.
À 20h, on doit rentrer chez soi, on doit se nourrir, on doit aller se coucher. Lui, il peut continuer.
Ah oui, bon.
Ouais, d'accord.
Ça vient des cafés aux développeurs qui travaillent toute la nuit.
Ouais, c'est ça. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, ouais. Visiblement. On va parler maintenant de Gradium. Est-ce que vous connaissez cette pépite que j'avais reçue dans Tech & Co il y a quelques mois de cela? Pépite française, très intéressante, d'IA vocale. Par exemple, ils font du text to speech, ils font de la traduction aussi, Gradium. Bref, une belle boîte, très intéressante. Et là, pourquoi on en parle ce soir? Parce que il vient d'atteindre les 100 millions de dollars de financement et Nvidia devient l'un des principaux investisseurs de Gradium. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Gradium s'étend aux États-Unis. Donc voilà, écoutez, plutôt bonne nouvelle tout ça. Hein, Mistral et la robotique, Gradium qui monte d'un cran visiblement. Qui commence là-dessus?
C'est intéressant, on est encore dans l'économie circulaire. C'est Nvidia met de l'argent dans Gradium qui va probablement utiliser les puces de Nvidia, donc au moins ils sauront quoi faire avec l'argent vu que c'est devenu quand même très très cher.
Et encore, c'est pas comme quel deal.
Gradium, c'est une excroissance de Qtail.
C'est ça qu'il faut dire.
Je sais, Jean-Baptiste me pousse presque du coup dans un allez, mais vas-y, tu vas le dire.
C'est hyper original. Il y a aucun autre endroit où on a ce système de labo de recherche qui est un labo de recherche privé de fait qui spin-off.
Attends, je vais faire le journaliste. On repart du début. Qtail, c'est ce truc commenté par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt,
qui est le propriétaire de
Google, qui ont mis 300 millions pour créer un laboratoire.
Juste un mot, Rodolphe Saadé qui est le propriétaire de BFM Business.
Oui, ça c'est le NDLR en bas de la.
Il faut
le rappeler. Qui ont créé ce laboratoire d'IA qui est destiné justement à faire des start-out en fait, à créer des produits qui prendront leur envol. Ils avaient mis 300 millions. Là, Gradient se enlève 100. Ils en avaient déjà levé 70 à la fin 2025. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne connaît pas les noms des autres investisseurs. Bon, soit, on verra bien. Mais, et puis surtout, ils arrivent sur un secteur qui est quand même un peu en surchauffe. C'est-à-dire que les startups européennes de la voix et de l'IA ont levé plus de 500 millions sur les 6 derniers mois. Donc, il se passe pas mal de choses. On voyait comment ça s'appelle, c'est Gladia.
Gladia,
c'est racheté par OVH Cloud, enfin, en voie d'être racheté par OVH Cloud. Non. Mais on sait que là aussi, c'est un marché, presque infini.
Ce qui est intéressant, c'est que Qtail était un des premiers à faire une IA vocale, qui est donc un LLM vocal qui réfléchit en voix. C'est-à-dire que habituellement, ce que tu fais, c'est que donc tu parles, ça fait du speech to text. Ensuite, ça te utilise le texte pour faire.
Donc ça fait toutes ces conversions, en fait, c'est ça.
Et justement, Mochi, qui était donc le premier modèle de Qtail, ne fonctionne pas comme ça. En fait, on ne repasse jamais en texte. Donc ça fait pas speech to text, text to LLM, LLM to voix.
D'où la faible latence.
Et donc, ils avaient justement Mochi, qui était une des latences les plus faibles, ou justement pour faire quelque chose qui te répond en 100 millisecondes au téléphone. Et c'est une partie des gens qui ont fait Mochi, en fait, qui ont spin-off pour faire Gradium. Sachant que la société peut-être la plus connue en voix au monde, c'est Eleven Labs, qui est surtout très très forte en text-to-speech, donc en génération de voix.
Oui, et arrive à numériser les voix humaines.
À cloner, ouais.
Voilà, à les cloner, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors, Gradium, avec tout cet argent, va s'installer dans la baie de San Francisco. Ils vont accélérer sur la recherche en IA, développer sans doute de nouveaux produits, et puis donc cette expansion internationale avec l'arrivée dans la Silicon Valley.
C'est très bien.
C'est très bien.
Très bien. Et surtout, tu vois quand même que la voix, c'est la nouvelle frontière. On va en parler juste après parce que je pense qu'après on parle de ChatGPT, mais maintenant il y a ChatGPT Live qui est activé dans pas mal de d'applications ChatGPT. Et donc maintenant, tu touches plus à ton app et tu fais que parler. Et c'est une vraie conversation qui arrive. La voix, c'est important.
Ouais. Christophe,
c'est marrant parce que tu vois, je me souviens. Il y a 25 ans, j'étais chez Microsoft et il y a certaines personnes qui disaient « The voice is the new mouse ». Et on avait ce thème-là. Et en fait, bon,
Bill Gates l'avait promis pour Windows 98.
Oui, oui, oui. Tout arrive, si tu veux.
Non, pour les plus jeunes,
c'est pas la première promesse qui n'a pas été réalisée.
Avec le timing,
c'était.
Ouais, mais là, tu gratouilles un peu Christophe. Windows 98, tu lui rappelles de bons vieux souvenirs, si tu veux. Tu vois.
Windows 95, c'était quand même mieux. Mais oui, en fait, il y avait ce.
Le mieux, c'était Windows Vista, on est d'accord.
Oh là là.
Là, j'étais parti. C'est pour ça d'ailleurs. Oui,
c'est pour ça que ça a planché.
C'était Christophe qui l'a présenté en haut de la
pierre. On s'égare un petit peu.
L'arche de la défense.
Et en fait, il y avait ce concept-là et je réalisais là, il y a quelques jours, moi-même dans mon utilisation de Perplexity, de Claude, que de plus en plus souvent, je bascule en voix parce que ça va beaucoup plus vite. Et en fait, je l'ai fait assez récemment. Donc je pense que l'interface voix, elle va se développer largement, même si. C'est probablement pas la première idée. L'idée, là, c'est plus finalement comment, dans des contextes de traduction automatique ou d'agents interactifs, je vais pouvoir répliquer une conversation qui ressemble encore plus à de l'humain, notamment avec le fait de ne pas avoir de latence, ce que tu expliquais, et le fait que visiblement, ils sont capables, lorsque je l'ai lu, de comprendre que. Il y a un silence, mais ce silence, c'est est-ce que j'ai fini ma phrase ou est-ce que je réfléchis et de pouvoir
d'anticiper, de prédire un peu.
Il y a une sorte de moi, ce qui... le process que Jean-Baptiste décrivait, il y a une sorte de compression de tout ça.
Ce que je trouvais intéressant avec Moshi, parce qu'on était à la démo et je pense que tu y étais aussi, JB, c'était impressionnant. En fait, l'IA répondait avant. Que la personne phrase. Termine sa question parce que ça allait tellement vite et l'IA comprenait. Le sens de la question avant qu'il termine sa question, ce qui fait que il se chevauchait tout le temps. Finalement, c'était même un peu too much la démo.
Ouais, mais la démo, elle était importante pour te montrer.
Ça prouvait la rapidité du système.
Noté, par exemple, Moshi a été entraîné donc avec des techniques un peu différentes de ce que tu entraînes habituellement, mais avec pas assez de données. Donc si tu dis que tu jouais avec Moshi très vite, c'était de l'hallucination totale. Il racontait n'importe quoi, mais c'était pas grave. Et c'était pas le fait d'un produit. C'est de monter une démo technologique, une façon d'entraîner des modèles voix.
Après, ce qu'il faut voir sur la voix, est-ce que c'est ça va être la révolution bon, on attend toujours Siri et tout ça. On voit que toutes les, comme tu dis, the voice is a new mouth.
Tous les services clients, tous les SAV, on nous dit que ça va révolutionner tout ça.
Donc,
la dernière fois, il y a une IA qui m'a appelé. Excusez-moi, mais j'étais là, je pouffais de rire pendant 10 minutes, quoi.
Est-ce que c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est juste une nouvelle interface? Parce que derrière aussi, la voix, tu parlais, on peut discuter avec la voix. La voix, et c'est les chercheurs qui le disent, à un moment, t'as une certaine fatigue conversationnelle. C'est-à-dire, il y a un moment, on a un peu marre de parler. Enfin, tu vois, on peut pas, alors qu'au clavier, bon, il peut y avoir la fatigue du clavier aussi. Mais voilà, faut faire attention à ça. La fiabilité, comme tu dis, les silences, les accents, les mots qui se touchent. Et puis, dernière chose, la sécurité, parce que les clonages vocaux, je n'ai pas de dessin pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est ultra perfectionné et que là, on a quand même des niveaux assez forts. Donc, voilà, il y a quand même quelques étapes pour que ça soit sécurisé.
Non, moi, je pense qu'il faut.
Mais Gradium, voilà,
c'est positif. On est plutôt bon là-dedans. Moi, j'ai une question quand même. Je trouve que c'est super positif. Et puis, le modèle d'un laboratoire privé qui essaime une entreprise, en plus, avec des. Cofondateurs, de ce que je comprends, qui sont des anciens de Google, DeepMind ou de Meta. Donc, ça veut dire qu'on est quand même capable de recréer de l'IP local et de donner envie aussi de créer des entreprises en France. Donc, ça, c'est positif. Mais la question que je me pose, c'est quoi le futur d'une boîte comme ça? C'est quoi en quoi on fait un produit? Parce que si tu fais juste. Tu vois, si tu as juste une super démonstrateur qui fait ça, tu vas avoir un truc un peu en avance. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un va rattraper.
C'est aller l'intégrer dans des.
Et donc tu te dis, l'exit, c'est d'être acheté par un Siri qu'on a l'habitude de.
Un OpenAI dans leurs lunettes, leurs futures lunettes.
Voilà, à mon avis, la sortie industrielle, donc, elle est proche parce que sinon, t'as un risque, d'avoir quelqu'un qui fait du good enough, mais le good enough, il sera enough.
Exactement.
Et là, c'est quand même. Un truc très horizontal.
Mais d'où la bonne idée d'essayer de s'émanciper et d'aller dans la Silicon Valley.
De se mettre aux US, absolument.
Bien sûr.
Absolument.
Évidemment.
Et puis, il y a quand même Nvidia qui a mis un peu d'argent là-dedans, donc ils doivent sécuriser un petit peu. Ils vont réussir à.
Alors, ce qui n'est pas très clair dans l'annonce, c'est savoir si Nvidia c'est le lead ou c'est le follow.
Oui.
Et ça m'a un peu gêné dans cette. Alors, par contre, je n'ai pas assez cherché, ça c'est un peu ma faute.
Et puis, il n'y a pas de valorisation non plus.
Non, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup d'infos.
C'est moins grave, mais de fait, leur père, c'est Eleven Labs, 22 milliards. Pas mal.
Oui, pas mal du tout.
Mais beau produit.
Est-ce que vous voulez qu'on parle de ChatGPT, de la publicité qui va arriver, les amis? Voilà une bonne nouvelle, juste avant de partir en vacances. Préparez-vous, car OpenAI cherche des vendeurs de pubs. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, allez, ça va arriver chez nous. Et typiquement, la branche française d'OpenAI cherche des commerciaux qui vont vendre de la publicité. Et à partir du moment où vous cherchez des commerciaux qui veulent vendre de la pub, ce qui se trame, c'est pas terrible, terrible. Et donc, à terme, peut-être dans quelques mois, on aura de la publicité qui apparaîtra sur les versions gratuites et Go de ChatGPT, qui sont, on va dire, les plus abordables. Enfin, évidemment, la gratuite est très abordable. Celle qui est la Go, elle est à quelques dollars, je crois, c'est 5 euros ou 5 dollars, quelque chose comme ça. Et donc, la pub peut apparaître de deux manières. Bannière, qui n'a rien à voir avec votre discussion. Et puis, je crois qu'il y a aussi une autre fonctionnalité qui est de parler en fait à une publicité qui s'affiche pour avoir plus d'informations. Je crois que c'est ça les
deux formules.
Voilà, de toute façon, Sam Altman n'a pas le choix. Il faut qu'il arrive à diversifier ses revenus, Christophe.
Et à monétiser un peu ces 95% d'utilisateurs qui ne payent pas un rond. Enfin, c'est un peu ça.
OpenAI, dans la galaxie des acteurs de l'IA, pour moi, c'est un des plus fragiles parce qu'il n'a pas les poches profondes, il n'est pas Google qui a des business qui rapportent des dizaines de milliards, ou Microsoft, ou Anthropic avec Amazon. Donc, quelque part, il faut qu'il arrive à trouver dans son activité un business model qui peut fonctionner. Donc, il y a effectivement la conversion, un upselling sur la base B2C très large. Mm-hmm. Et puis, il y a le développement de l'activité B2B qu'ils essayent de faire avec en essayant de développer, de recruter massivement des équivalents forward deployed engineers à la mode Palantir pour essayer de développer des applications IA chez les clients. Mais donc, ils ont absolument besoin de monétiser cette audience qui est quand même importante, même s'ils se font rattraper quand même pas mal
par 900 millions de personnes.
Et donc, il est naturel qu'ils le fassent. Maintenant, la question, c'est en quoi l'expérience va-t-elle être claire sur ce qui est la publicité et ce qui ne l'est pas? Visiblement, dans les premiers tests qu'ils ont fait, parce qu'ils en ont fait sur 10% de leur base installée aux États-Unis, de ce que je comprends, ils ont des taux de conversion sur la publicité qui sont 3 à 4 fois ce que fait Google. Donc, ils arrivent à du 5 à 7% de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es déjà engagé dans une discussion assez approfondie. Et donc, tu es chaud comme prospect, si je puis dire.
Ouais,
et donc,
tu
bascules plus rapidement. Et ça atteint 7% dans le tourisme. Je ne sais pas si vous avez préparé un voyage avec ChatGPT ou avec Mais en fait, naturellement, il propose des choses. Et on se demande toujours pourquoi il me propose tel hôtel.
Et pas ça.
Et pas ça. Et donc,
est-ce qu'il n'y a pas eu un petit billet à Hilton pour te proposer?
Il faudra qu'il soit évidemment très.
Alors, avoir un comportement. Juste une chose. OpenAI stipule et précise bien que ça n'influera pas sur les réponses qui seront affichées. Voilà, ils le disent, ils le répètent.
Pour le moment, on croira entendre Don't Be Evil.
Non, mais bien sûr. Là, je me fais le porte-voix de Sam Altman, mais sincèrement, est-ce que j'y crois? Pas énormément.
Mais c'est pour ça qu'il travaille avec Criteo, d'après ce que j'ai vu. Donc, quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit, le but, ce serait Criteo, serait le partenaire. Alors, comme par hasard, Criteo, en ce moment, est en train de chercher de nouvelles débouchés, voire se vendre à des fonds. Donc, Microsoft a bien son agence.
Ils ont raison, il y a une nouvelle disruption.
OpenAI pour avoir sa régie pub aussi.
Mais la pub JB sur ChatGPT, c'est...
Moi, je paye pour ne pas avoir de la pub. La pub, c'est un cancer du cerveau, si tu veux que je te dise. Je ne peux pas me poser mon avis sur la pub.
On ne mangera pas ce soir.
C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, tu l'as dit. Il faut qu'ils monétisent cette énorme base installée de gens qui ne payent rien. Et puis surtout, ils sont quand même dans une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'ils ont préannoncé le fait qu'ils allaient faire une IPO, qu'ils allaient s'introduire en bourse. Le problème, c'est qu'ils ont des vrais frais d'infrastructure et puis d'énormes annonces d'investissement qu'il faut financer. ce qui leur pend au nez, c'est ce qu'on appelle un down round, c'est que un prochain round de financement se fasse à une valorisation inférieure au précédent, parce qu'on a vu que la valorisation, au moins virtuelle pour l'instant, d'Anthropic a dépassé celle d'OpenAI, et donc ils sont dans une situation terriblement inconfortable. On le dit ici, hein, ils font des annonces tout le temps, avec des choses qui se réalisent ou pas, parce qu'ils ont besoin quand même d'envoyer du charbon dans la fournaise, tu vois ce que je veux dire, pour continuer à justifier des valorisations qui tiennent pas debout, mais on en reparlera tout à l'heure.
Mais est-ce que ça peut être un gros business, à votre avis, cette pub? Parce que tu disais que le taux de conversion est important.
Oui, regarde les business de Google. Mmh. Google, 80% de business, c'est de la pub. Et Google, ça fait beaucoup d'argent, avec des grosses marges.
200 milliards par an, non, mais c'est énorme.
La question, c'est, est-ce que l'utilisateur qui, aujourd'hui, est vierge de publicité sur ChatGPT ne va pas aller voir sur Gemini,
Justement, ils vont tous le faire.
Ils vont tous le faire.
D'accord. Je vais t'annoncer un truc, c'est que Google risque de le faire mieux que les autres.
Mais Anthropic s'était moqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ChatGPT. Oui. Avec cette pub. Avec cette pub, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était pendant le Super Bowl. Vous vous souvenez ou pas? C'était incroyable. Il y avait un humain qui posait une question à un autre humain qui était en fait ChatGPT, et ChatGPT au bout d'un moment lui poussait de la pub un peu comme à la télé, quoi, et il s'arrêtait de répondre correctement et racontait en fait un écran pub, et c'était vachement bien fait. Et donc Anthropic se moquait un peu d'OpenAI.
Anthropic a pas le même ratio d'utilisateurs qui payent pas. Anthropic, l'essentiel de leurs utilisateurs payent, enfin en tout cas ils ont un modèle économique beaucoup plus équilibré.
Et puis n'oublie pas que nous, alors, voilà, un peu alertés, on est un peu anti.
Oui, mais il y a
quand même un marché captif. Alors, Occident, mais Inde, Chine, Chine après avec ChatGPT sera un peu plus complexe, parce qu'il y a déjà pas mal de monde, mais tu as quand même un marché très captif ailleurs dans le monde qui mettent de la pub, tout ça.
Bon. Donc,
Non, je pense que ça le filet est suffisamment large pour que ça puisse rapporter des sous. Moi, je regrette toujours. Bon, on avait Fujisimo qui était arrivé à la tête, pour gérer tous ces business, qui malheureusement, pour des raisons de santé, a dû se mettre un peu en recul. Puis je pense que ça, là, on avait toutes les petites choses qu'elle avait amorcées et voir qui. Je sais pas qui est à la tête de tout ça maintenant, mais. Aller chercher des
voilà, en tout cas, une chose à retenir, la publicité, ça va pas tarder à arriver en France, dans ChatGPT, en tout cas pour la version gratuite. Cédric, Jean-Baptiste, Christophe et Fred, on revient dans un petit instant pour la suite de ce Tech & Co, la quotidienne. Petite pause et on est de retour, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne, 20h04, merci d'être là. Allez, bonnes vacances à vous qui êtes peut-être déjà en train de profiter de ces quelques journées de repos, vous avez bien raison. On débriefe ensemble l'actu tech jusqu'à 21h avec Cédric Ingrand, Jean-Baptiste Kampf, nous avons aussi Christophe Honnête et Frédéric Simotel. On reste un peu du côté de ChatGPT parce que vous avez suivi quand même l'actu. Ça y est, ChatGPT passe à la version 5.6, nouvelle famille de modèles, donc avec Sol, Terra, Luna. La Sol, c'est le top, Terra, c'est la moyenne gamme, et la Luna, c'est la petite, rapide et peu chère. Voilà. Alors, tout ça a été lancé d'abord aux États-Unis. Donald Trump a mis son nez là-dedans. Il s'est dit, oulala, attendez, on va réserver ça pour l'instant aux élites, et puis on verra après si ça ira à l'étranger. Visiblement, ça y est, c'est autorisé à l'étranger, mais pas toutes les versions. Enfin, on est en train de revivre ce qu'on a vécu avec Fable et Anthropic, et Mythos. Est-ce que vous avez des infos? Fred, ça vient de tomber, je crois, en plus.
Oui, à 19h, comment il s'appelle, Sam Altman faisait la présentation un peu de tout ça. Juste un petit mot pour dire que j'ai lu tout à l'heure une interview de Brad Smith, donc le président de Microsoft, qui dit qu'en ce moment, c'est un peu le bazar, ces histoires de régulation. Il dit, en termes de toute la régulation qui est mise en place sur l'IA, enfin les décisions plutôt prises par l'administration Trump, il dit ça manque de transparence, on manque de contrôle de tout ça, et on est vraiment en train de mettre en l'air un peu le business. Et voilà, il l'a dit un peu de façon un peu crue. Mais oui, comme tu l'as dit, on avait quelques bribes, mais là, à 19h, il a, heure française, il a donné un peu plus d'infos donc sur, sur tout ça. Alors, il a donné toutes les versions, enfin, toutes les comme d'habitude, les classements, les vitesses, enfin, tout ce qu'on connaît, les poids de tout ça. Il a aussi parlé d'un GPT Live, je crois que Jean-Baptiste l'apprécie particulièrement.
Donc GPT Live, c'est l'assistant vocal de ChatGPT, en fait. C'est l'interface vocale.
C'est l'interface vocale. C'est une vraie interface.
Mais ça fait longtemps que ça existe, ça.
C'est non, parce qu'à 20
c'est le bouton bleu là qui est sur l'iPhone. Moi, je m'en sers souvent.
Ouais, mais t'avais. Ouais, mais sauf que t'avais. Tu t'étais. C'est ça se coupait en cercle. Hein. Ouais. Ça s'arrêtait. Là, il vraiment. Tu éteins ton téléphone. En fait, t'es vraiment. Tu touches plus au téléphone. C'est ouais. une conversation.
Et ça marche nickel.
Franchement, c'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est une vraie avancée.
En fait, il peut parler et écouter simultanément. Or, ce qu'on faisait avant, c'est tu parlais.
Oui, il s'arrêtait.
Il s'arrêtait. Et il te.
Ok. Effectivement, c'est assez agréable parce que tu peux lui dire arrête-toi, tais-toi, et tu continues parce que tu sens qu'il part dans le. Mais si, c'est d'expérience. Ça, c'est pas mal.
Parce que des fois, je dis ça à Fred, il s'arrête pas.
Ouais,
est-ce qu'on pourrait pas avoir.
L'année prochaine.
Tu peux pas le mettre à jour avec.
Non, mais surtout, je te l'enlève, je te mets un robot et je te mets Fred et je l'aurai entraîné avec tous les contenus. Mais tous les.
Je préfère le garder comme il est parce que. Tenu
de BFM que vous avez tous en replay et donc je pourrais faire un Fred virtuel et donc là tu pourras l'engueuler et ça sera légal.
Attention, c'est intéressant ce que tu dis. Tu arriveras à faire un Fred Simotel virtuel?
Pas aussi bien qu'en vrai, mais oui.
Non, mais pas aussi bien.
Bah, avec pourrait, avec un. Attends, mais déjà, tu
on pourrait tester.
Radium et Eleven Labs, je te fais une voix, franchement.
Oui, nickel.
Parce qu'en fait, je suis désolé, vous êtes les plus faciles à cloner. Vous avez. Il y a une quantité de contenu sur vous qui est absolument hallucinante.
Là, l'échantillon, il est immense.
C'est hyper. Vous êtes hyper facile à cloner.
Non, et puis tu commences à avoir des endroits où les gens disent je clone telle personne, c'est-à-dire que je nourris de tous les discours qu'il a fait, de toutes les interventions, de tous les Q&A, de toutes les réunions. Et quelque part, j'arrive à recréer quelqu'un qui, dans un échange, se comporte exactement comme la personne.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive à cloner la voix de Fred et des phrases qu'il pourrait dire, mais pas la profondeur de ce qu'il raconte. On est d'accord. Non, les gars. Mais Fred, défends-toi.
Mais non, parce que justement, on est en train de travailler sur la bêta version là chez nous là. Alors c'est du Mistral derrière, et je peux dire que quand tu commences à faire tes skills et que tu lui dis un peu tous tes trucs, il va très loin et il réfléchit comme toi, il écrit comme toi. J'arrête pas de le dire aux journalistes en disant pensez que, enfin, faut vraiment travailler autrement parce qu'il écrit comme toi. Je t'assure.
Il a le style.
Et c'est assez impressionnant là. Je vois dans les skills et en plus il apprend. Il te dit j'ai repéré que tu étais un peu comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu avais un ton un peu sarcastique. Tu aimes bien parler tel sujet. J'ai repéré tout ça et il va chercher. Il va te dire j'ai repéré que souvent tu fais des trucs où tu dis voilà, il y a trois raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec tes trucs. Voilà, est-ce que tu veux qu'à chaque fois je mette ton raisonnement en trois points?
Tu vois, sur Kaber, on a plein de démos où en fait on a des Rich Mini, tu vois, c'est ce petit robot, et en fait, où toute l'IA est déportée, hein, c'est le but, un des buts de Kaber, et en fait, toutes les démos qu'on a, elles ont ma voix. Les gars, ils ont pris toutes les âneries que j'ai racontées sur les plateaux télé et dans les podcasts.
Et Dieu sait s'il y en a.
Il y en a. Et puis, en fait, j'ai écrit plein de trucs de doc, de rapports, ils ont accès, et en fait, c'est vrai qu'il répond pas mal, quoi.
Il répond pas mal, mais on n'arrive pas à ta dextérité, à ton naturel. Mais
attends, ils ont fait ça en 5 minutes, etc. Ouais. Imagine, là, t'arrives, tu fais, je mets 100 heures de calcul sur l'ensemble des contenus BFM Business, en voix, en podcast, etc. Tu fais du speech to text, t'as tous les écrits, tu accèdes à tous les documents qui sont stockés dans votre SharePoint quelque part. Je te promets, tu vas arriver à un truc assez cool.
Ouais, moi, je le vois dans les préparations d'interview et comment je retranscris la notre interview. Et je peux dire, dans les déroulés, il fait exactement ce que je fais, quoi.
Mais pour vous dire, c'est vrai qu'on on expérimente un truc avec Fred, on a été filmé et cloné par des caméras, etc., pour voir ce que ça pourrait donner, en fait, un clone de Fred Simotel ou de François Sorel.
Pour faire des bandes annonces,
pas pour remplacer nos personnes dans les émissions, mais voir ce que ça donnerait, tu vois, par exemple, pour des bandes annonces ou des tâches à faible valeur ajoutée, on va dire.
Pour revenir sur juste avant qu'on parle de live 5.6, il y a quand même un gros push sur la partie développement, hein, parce que quand même ils s'ont bien fait prendre la couronne par Claude déjà en 4.7, 4.8 et puis en 5 avec Fable et Mythos. Un gros push sur la sécu et avec les premiers retours qui ont l'air d'être assez intéressants, où justement ils ont travaillé ça, et beaucoup de push sur Codex, vraiment, donc la partie mais pas juste ça. Qui remplace ton faire aussi un peu ton cowork et ton automatisation, ton interaction machine.
J'ai vu que sur toute la partie raisonnement aussi, certains disent que voilà, ils sont vraiment améliorés sur
Là, ils sont améliorés, et puis après,
Après, Claude va sortir une version qui va être meilleure. Enfin,
Et ça s'appelle ChatGPT Work. Hein, ça vient de tomber là. Je viens de recevoir le communiqué de presse. Je ne sais pas, Fred, si tu l'as vu. Voilà, qui est un super codex, finalement. Voilà.
Mais donc, il y a énormément de travail autour de codex.
ChatGPT Work, ça va permettre de rendre tout ça beaucoup plus accessible.
Ouais, c'est ça.
Aussi, ça va simplifier pas mal de choses. Et donc, ça veut dire que, alors, non pas qu'il faut forcément être un ingénieur pour développer des choses avec ChatGPT, mais ça va permettre de, quand même, à des petites entreprises de pouvoir avoir accès
à ces outils. Et là, ils ont le droit de, ChatGPT Work, ils ont le droit de commercialiser ça en Europe.
A priori. Bah, visiblement, oui. Et en fait, dans Work, il y a Chat, Work et Codex dans une même interface. C'est voilà. C'est une application qui réunit les trois services.
Et si je me trompe pas, là, ChatGPT 5.6 est les meilleurs sur un benchmark qui doit s'appeler Arc AGI 3, qui est le benchmark pour atteindre l'intelligence artificielle généralisée, on pourra en reparler, et c'est le meilleur, là, il doit être à quelques pourcents, alors que les autres étaient à quelques pourcents, mais moins.
Ok, d'accord. Donc voilà, ChatGPT est toujours dans la course.
Là ils sont normalement, ils sont state of the art.
Et puis ils sortent aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sortent aussi beaucoup de versions très pointues dans des domaines scientifiques,
oui, bien sûr.
Sur la médecine, sur tout un tas de domaines. Non, ils sont toujours bien. Après, ben voilà, il y a le côté rentabilisez-moi tout ça, les amis.
Voilà pour 5.6, ça vient juste d'être annoncé, alors voilà, on y reviendra sans doute sur BFM Business dans les jours qui viennent, mais en tous les cas, ça y est, c'est lancé, et ça sera développé en France et en Europe de manière progressive, donc assez rapidement. Je vous propose de parler de Samsung maintenant, ça vous va ? Samsung qui cartonne en ce moment. Samsung, c'est vraiment la boîte bankable. Et je ne parle pas de Samsung smartphone, télé, etc. Parce que ça, c'est, j'ai presque envie de dire, du pipi de chat à côté de la branche Samsung composant, Samsung Electronics, qui, elle, fabrique... On va dire l'immense majorité des composants de votre iPhone, de tous les téléphones en fait, hein, les écrans, la mémoire, etc., etc. Et Samsung profite en ce moment de cette folie de la mémoire et de certains composants et explose en fait ses résultats financiers, Cédric. C'est dingue.
Ils ont fait quoi, 18 milliards de bénéfices sur un trimestre ?
Ils devancent Nvidia.
Oui, c'est milliards. Ça. 18 50, milliards.
58 milliards sur le.
58,5, excusez-moi.
Ah, pardon. Non, de revenus ou de bénéfices ?
Il parle de bénéfices.
Oui, je parle de bénéfices.
De bénéfices.
Ouais.
18 millions.
Non. Plus 50 milliards de bénéfices sur le deuxième trimestre.
Alors, il y a un bénéfice opérationnel pour le deuxième trimestre de 2026 de 58,5 milliards de dollars. Voilà, moi c'est ce que je vois.
Ah oui, non, 58 milliards. Ils ont multiplié par 18, tout ça. Non, c'est
ah oui, non, pardon, ils ont fait 1800% par rapport à l'année dernière.
1800%. C'est ça.
Et à eux seuls, 94% des bénéfices de Samsung. Pas mal.
C'était mon coup de cœur l'autre soir. J'ai un coup de cœur pour Samsung. Je trouve
que pourvu que ça dure.
C'est l'entreprise qui fait tourner le monde de la tech et dont on parle pas. Enfin, en parle-t-on ? On en parle évidemment souvent, mais qu'on ne met pas toujours dans le.
Non, mais ça nous rappelle que, bon, il y a beaucoup d'incertitudes sur les différentes. Sur la monétisation et la capacité à générer des profits d'un certain nombre d'acteurs qui investissent massivement sur l'IA, mais ce qui est sûr, c'est que le hardware, il fonctionne. Hein, et que ceux qui aujourd'hui réussissent, bah, c'est ceux qui ont un business model qui est en tout cas éprouvé, qui est celui qui installe dans les data centers et dans les serveurs.
Et pour vous donner un ordre...
Ils sont verticaux, ils sont horizontaux. Ils sont partout, ils prennent dans n'importe quel sens, ils ont toutes les diagonales.
La progression du bénéfice, écoutez bien, ça va dépasser le bénéfice cumulé généré au cours des 40 dernières années de Samsung. Ouais.
Je comprends pourquoi ils mettent en grève.
C'est-à-dire que c'est...
Il y a un phénomène de volume.
C'est quasi...
Il y a un phénomène de volume.
Miraculeux, quoi.
C'est-à-dire, il y a une demande dingue et il y a des prix... qui ont massivement augmenté. Donc, non seulement tu augmentes dramatiquement tes volumes, mais en plus, tu augmentes tes prix. Donc, effectivement, aujourd'hui...
On est ravis pour eux, mais c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde.
Ouais. Ah oui, non, c'est sûr.
Tu l'as dit ici, Apple a augmenté ses prix, Microsoft a augmenté le prix de la Xbox.
Tout le monde va augmenter ses prix.
Je voyais récemment notre ami et camarade Octave Klaba qui se plaignait en disant « Aujourd'hui, j'achète des SSD, tout à coup, ça fait x6, x7. » On me dit « Mais faites vite, parce que ce sera x12 à la fin de l'année. » Enfin, bon. Non, c'est monstrueux.
Il faut se rendre compte que surtout, la pénurie va durer longtemps.
Ouais. On parle de jusqu'à 2030.
Bah, c'est sûr que c'est 2030. Moi, je te peux te garantir que c'est au moins jusqu'à 2030 parce que finalement, il n'y a que trois boîtes qui font de la RAM. Hein. SK, Samsung, Micron, à peu près. Et quelques micro acteurs qui font quasiment rien. Et à E3, en fait, une partie fait quasiment que de la HBM, donc que de la mémoire pour l'IA. Les Chinois sont censés créer quelques fabs qui vont arriver pour fin 2028 à l'origine. Là, ils sont déjà à fin 2029 et c'est de la LPDDR6. Mais on considère que ça va augmenter la production de RAM avec toutes les nouvelles fabs de 20%. Or, la demande, en fait, elle peut absorber 50%. Et donc, bah, tu peux dire, ouais, 2030, sans problème, ouais.
Et Samsung ne peut pas, on va dire, allez, je sais pas, moi, monopoliser une autre partie d'une usine et se dire, vous savez quoi, bon, on va faire un peu plus de RAM parce que ça cartonne.
Si, s'ils veulent faire de l'humanitaire, ils peuvent faire ça, mais je pense pas que ce soit le.
Non, mais je veux dire, ça respire pas ces usines-là.
C'est pas aussi facile que ça à construire, ces usines, je pense.
Il y a très bien. Et attention, une usine de RAM n'est pas une usine de CPU.
Ouais.
Attention, ça n'est pas. C'est les mêmes idées. Mais en fait, tes chaînes de prod, elles font un truc et c'est des environnements qui sont très très précis dans du vide, etc. Et surtout, moi, je pense que c'est très facile de faire de la RAM. Faire de la RAM relativement peu cher par unité de RAM, c'est très 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 difficile. Ouais. Parce qu'en fait, dessiner une RAM, c'est quand même pas. Enfin, toi, et de la NAND, franchement, il y a rien de très très compliqué. Ouais, mais sauf que le faire très très petit à un prix très très faible par rapport à la quantité, oui. Sauf qu'aujourd'hui tu as besoin de quantités monstrueuses et donc
il y a beaucoup de déchets quand ils fabriquent ces trucs-là parce qu'on sait que pour certaines puces il y a pas mal de déchets.
Un des critères, c'est d'arriver à avoir un yield le meilleur possible.
Voilà, c'est ton sujet du yield.
Et puis surtout, sans RAM, ça marche pas.
Bah non. Sans RAM, on n'avance pas, j'ai envie de dire.
Des modèles plus petits qu'il faut faire, que tu fais tourner sur des devices, de la compression de la RAM, on va avoir téléchargé de la RAM, c'est les pubs télécharge de la RAM, augmente ta RAM, qui vont revenir.
Moi je me dis, tiens, il y en a un qui a vraiment raté son virage, c'est, alors on va repartir plusieurs années en arrière, c'est Texas Instruments. Parce que je pense que Texas Instruments aurait pu être un Samsung-like quelque part s'ils avaient poursuivi. Je ne sais pas s'ils auraient fait des smartphones, mais. Voilà, ils auraient pu élargir. Mais Samsung, c'est ça qui est dingue. Puis Samsung, faut voir. Bon, au-delà du gouvernement qui a un moment, il faut voir la Corée du Sud. C'est quand même un pays. Il a que des ennemis autour de lui. Hein. Corée du Nord, Chine, le Japon. C'est pas la fête. C'est pas les super amis. Bon après, les Américains sont un peu partenaires, mais on voit que les Américains aujourd'hui partenaires, amis, ennemis, on ne sait plus trop. Et puis l'Asie du Sud-Est qui est toujours en train de bouillonner pour essayer de sortir des choses. Donc c'est un pays qui cherche toujours cette résilience, qu'elle soit géopolitique, militaire et technologique. Et donc voilà. Et on soutient. Enfin, on voit les Skynix, on voit Hyundai, enfin LG. Enfin, on voit tous ces grands acteurs. Le gouvernement est derrière. Mais bon, voilà, maintenir sur autant de créneaux, enfin moi je trouve cette voie.
LG, c'est complètement à côté, hein. c'est pas la spécialité. Hein,
mais même leur expertise, c'était pas mal les écrans.
Oui.
En fait, la valeur des écrans en fait est descendue beaucoup. Non, moi ce qui me pose comme vraie question, c'est qui est en train de fabriquer une usine de RAM en Europe.
Ouais. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai pas trouvé. Hein.
Non.
Bah, personne.
Il faut trouver la friche industrielle.
Même adresse d'où il y a
commencé. Mais est-ce qu'on aurait la capacité à fabriquer une usine de RAM?
Donc, adresse, il y a des usines de puces. Hein, donc, il va y avoir des usines de puces.
Il y a des friches industrielles là-bas.
Voilà. Et en RAM, moi, je n'ai rien vu.
Non.
Donc, même pas le début d'un commencement de quelque chose.
Parce que c'est peut-être pas aussi facile à faire. Regarde les Chinois. On aurait pu penser qu'ils allaient développer une alternative.
C'est une question d'argent, non?
C'est une question d'argent. Et surtout, là, tu lances une usine, elle arrive dans 5 ans. La pénurie est sortie. Et là.
C'est ça le truc.
Et là quoi ?
Tel délai.
Bah tu sais pas quoi faire de ta RAM.
Mais c'est pas ça, c'est que tu vas vendre ta RAM à un quart du prix, et donc en fait, c'est embêtant. Donc en fait, c'est un business de d'offres et demandes compliquées à long terme.
Avec des sites un peu boom bust. Etc.
Parce que vraiment, la RAM, les fabricants de RAM,
il y a aussi beaucoup de spéculation dans ce marché-là. En tout cas, moi.
Et puis d'après ce que j'ai
de NetGem, et qu'on s'approvisionnait, tu veux, en composants.
Oui.
Il y a des pénuries qui étaient, là elle existe, hein, mais qui étaient aussi largement amplifiées par un certain nombre d'acteurs pour faire monter les prix. Oui.
Et d'après ce que j'ai compris, avant cette flambée du prix de la RAM grâce ou à cause de l'IA, en fait, des acteurs comme Apple tordaient le bras de tous ces fournisseurs de RAM. Oui. Parce que finalement, à l'époque, les forces étaient inversées. C'était Apple qui était le big boss là-dedans.
Mais tu sais, c'est intéressant. C'est pas gay tout ça. Enfin bon,
Ah, la RAM, c'est pas gay.
Là, ça.
Alors, c'est le dernier.
la dernière de la saison.
Mais est-ce que ça, une IA pourrait faire ça? Je pense pas.
Non, bah c'est pour ça que tu remplaces pas par une IA.
Mais tu vois, je disais mon coup de cœur l'autre soir, c'était Samsung. Hier soir, mon coup de cœur, et ça les faisait rire, je disais c'est la RAM. Je disais voilà, quelque chose, une technologie complètement discrète, mais indispensable aujourd'hui. Et qui nous, on aurait pensé, mais même il y a 18 mois, se dire, il y a un soir dans Tech & Co, on aura un débat sur la RAM. Je dis, mais attends, t'étais fou, quoi. Tu sais, la RAM, nous, c'était la petite ligne dans les spécifications techniques. Et aujourd'hui, on a un débat sur la RAM en parlant de géopolitique, en parlant de grands cycles industriels qui peuvent être ralentis. Enfin, c'est quand même incroyable.
Le seul truc qui pourrait peut-être que ça se calme, c'est qu'il y ait une explosion de la bulle de l'IA.
Alors, on va y revenir. Mais c'est intéressant de voir qu'on passe des années à dire, regardez les géants de la tech, nouveaux maîtres du monde, etc. Et là, tu t'aperçois de quoi ? Que les nouveaux maîtres du monde, c'est les vendeurs de pelles.
Mais oui.
C'est-à-dire que, oublie le chercheur d'or, c'est le vendeur de pelles qui gagne à la fin. De toute façon, on le sait, sur le long terme. Et là, c'est passionnant. Parce qu'en plus, de fait, c'est des choses qui se passent un peu à bas bruit. Parce que, de fait, on parle pas de Samsung Electronics tous les jours. C'est un truc fiable. On sait que ça fournit des composants, que ça en fournit probablement énormément à plein de monde. On n'a pas plus de chiffres que ça, même si les chiffres sont quand même publics ou parapublics. Tu dis, Fred?
Ils fournissent ses écrans. Enfin, tu vois, même
ça. Ah non, mais, ça, on savait. Ouais, mais, et là, on s'aperçoit. J'ai revu les chiffres. 58 milliards en un trimestre. On comprend mieux
mais
les
primes. Mais le gars qui négocie la RAM chez Apple.
Les salariés qui.
Il doit être un peu plus stressé qu'avant, je pense. Le gars chez Apple qui s'occupe de la RAM, qui s'occupe d'acheter la RAM chez Samsung.
Ah, ils sont plusieurs.
Je pense que les forces en puissance ont changé.
Tu te rends compte que quand même, tu as une boîte globale qui a dit. J'arrête de faire de la RAM
pour le grand public
et je ne fais que de la HBM. Et d'ailleurs, j'ai vendu toute ma prod de cette année et l'année d'après.
Oui. What?
Et ça durera peut-être jusqu'en 2030.
Et là, Meta a fait des trucs assez rigolos pour réutiliser de la DDR4 en parallèle avec des modules à côté pour pouvoir réutiliser de la RAM existante pour voir.
Peut-être que sur le bon coin, on va pouvoir vendre notre RAM.
Mais tu peux,
c'est intéressant.
Vas-y, tu vas voir, ça fait un bout de temps que ça marche. Hein.
Ouais. Moi, l'année dernière, j'ai racheté un Mac Studio avec plein de RAM dedans. Je pense qu'il va payer ma retraite.
Moi, je pense que Christophe a un vieux. Christophe doit avoir un vieux PC sous Windows 95 avec des barrettes de RAM.
Oui, mais on en avait moins à l'époque.
Il n'y avait pas
128.
Ouais, mais 8 mégas,
c'est ça le truc. Hein.
Ça peut valoir de l'argent dans quelques mois. Là, vous vous moquez de 8 mégas, mais peut-être que dans le... On se dit, 8 mégas.
Cette vague IA, en fait, elle a remis le hardware au centre du jeu, finalement. Parce que autrefois, tu étais dans un monde où on se disait, bon, on développe du software, bon, il y avait un peu de cloud, mais finalement, il y avait une élasticité absolument énorme. Alors qu'aujourd'hui, l'IA fait qu'il faut de la puissance de calcul et de la GPU. Donc
ça, c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, l'informatique était donc ce qu'on appelait CPU bound, donc limitée par la puissance de calcul. Puis à un moment, là, en fait, tu as été IO bound, c'est-à-dire en fait quasiment limité par tes connexions réseau. Donc c'était le grand moment des stacks réseau, du kernel et du pure soft parce que en fait, tu faisais des microservices, tu allais faire des API REST sur le. Et là, tu reviens et donc tu montais dans les langages du Node, du machin. Et là, tu reviens sur le moment où c'est la première fois qu'on est depuis les années 90, RAM bound, qu'on est limité par la RAM.
Ça me rappelle.
Mais est-ce que ça pousse pas, ça a pas poussé aussi les développeurs à intégrer plus de frugalité?
Et donc, c'est ce que j'ai dit, des small language models et de la compression de RAM.
De la frugalité.
La frugalité de la RAM.
Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai démarré ma carrière, ça fait longtemps, on va pas dire que c'était.
Non, c'était il y a quelques jours.
Je me souviens de la limite de Windows 2 avec une limite de.
640 kilos.
Ouais, de 644 de RAM. Et après, il y avait des extended, des expanded. Et alors, j'y comprenais pas grand chose, mais en tout cas, on était contraint par ça. Puis un jour.
Boum.
Le verrou a sauté. On s'est plus jamais préoccupé de ce problème. Et là, on revient. Avoir cette attention à la puissance de calcul locale qui définit en fait tout ce qu'on va pouvoir faire.
Moi, je redirai mon coup de gueule d'hier sur les développeurs en langage C. Quoi. C'est un langage C qui bouffe de la mémoire sans cesse. Ben voilà, ça fait partie de l'optimisation, de revenir sur d'autres langages, le Rust. Et
tout. Alors, si j'ai une IA de Fred, je lui dirais, ne répète pas ce que tu as dit la veille. Je lui dirais ça, pour voir si ça marche.
Par contre, tu mets en haut du prompt.
Voilà. Je mets en haut du prompt.
Voilà.
Mais je suis persuadé, tu sais quoi,
pense
que ça
bien,
marche.
Mais
ça ne marcherait pas.
Non, parce qu'on peut se poser la question de te dire comment on fait pour optimiser la RAM.
J'aurais jamais dû faire ça.
Il ne reste que 3 minutes et on a
sujet. Non, s'il vous plaît, on passe au satellite. Allez, prenons de la hauteur, les amis.
Ah tiens, oui.
Montons à 300, 400 kilomètres d'altitude et parlons de ce nouveau projet très mignon de la part d'Elon Musk qui eh bien prépare une constellation de, non pas 20 000, 30 000 satellites, parce que 100 000, c'est mieux. 100 000 satellites pour cette nouvelle constellation. Ce serait donc des satellites Starlink de, on va dire, de toute nouvelle génération, je crois que c'est la troisième, qui seraient à des orbites encore plus basses que celles d'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, pour l'IA, forcément, parce que ça pourrait effectivement accélérer les échanges de données, et ce serait des satellites qui pourraient faire transiter plusieurs gigabits de données par seconde, c'est-à-dire qu'on aurait véritablement du Starlink tout aussi rapide et puissant que de la fibre optique. Voilà, ça c'était la première actu. Est-ce que ça vous parle, tout ça ?
Il y a un horizon là-dessus ou Enfin non, on ne va pas demander un horizon, parce que le truc...
Bah, un horizon dans l'espace, c'est les dates. C'est compliqué, vois-tu.
Il est fâché avec le calendrier de toute façon, même si à la fin, souvent, il a raison. Mais enfin, en tout cas, il fait ce qu'il dit. Mais faut pas oublier, lui non plus aussi, est dans une situation un petit peu inconfortable, parce que le cours de la section SpaceX, on rappelle, hein, SpaceX, c'est...
SpaceX
et XAI.
Non, ça s'appelle
oui,
SpaceX.
Oui, ça s'appelle XAI. Il n'y a même plus de SpaceX. Et X slash Twitter est aussi dedans, donc vraiment, c'est un petit espèce de petit consortium.
Alors, juste une chose, il devrait commencer à lancer ses satellites, parce qu'en fait, c'est une mise à jour de sa constellation qui existe déjà. C'est la V3, et il pourrait commencer à lancer les premiers satellites à la fin de cette année. Voilà. Après, bien sûr, ça prendra des années et des années. Hein.
Il promet 10 à 10 à 20 fois les capacités de la génération précédente dans un satellite qui fait une quarantaine de mètres, enfin la taille d'un petit Boeing. Donc très bien, mais il va falloir les lancer, il va falloir les financer aussi. Alors c'est vrai que
non, mais les satellites Starlink, ils sont tout petits, hein. Ouais. Ils sont pas gros comme des avions, hein.
Non, je te parle de la fusée pour
les lanceurs. Ah pardon, je croyais que tu parlais de la taille des satellites.
Non, ils sont pas très gros.
Il fait nuit.
mais lui aussi a besoin de soutenir son cours de bourse.
Oui, mais bon, ce qui est sûr, c'est enfin Starlink, c'est quand même un grand succès aujourd'hui. Tu vas dans un endroit, les gens Starlink, ça va changer la vie. Donc,
nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est très gâtés en termes d'infrastructures télécom. Mais hein,
si tu veux, franchement, là, il a cette ambition effectivement de pouvoir adresser effectivement la robotique, l'IA, mais il y a aussi derrière ce profil direct to cell ou direct to device, c'est-à-dire le fait de pouvoir bypasser les opérateurs télécoms et adresser directement téléphones en ayant des orbites plus basses et des latences plus faibles, hein, de ce que je comprends. Donc il y a aussi tout ce projet derrière.
Bien sûr.
Il y a une compétition mondiale dans laquelle il y a le projet Amazon Kuiper, mais les ordres, là, Amazon vient d'annoncer ils vont passer, je crois, à 10 000 ils veulent passer à 10 000 satellites à un horizon.
Et puis ils ont eu l'autorisation des instances françaises. De l'ARCEP, donc ça, c'est cool.
Les fréquences.
Et puis faire attention, parce que quand tu descends en orbite basse, tu as un peu plus d'atmosphère, donc ça veut dire que tu as beaucoup plus de résidus et tout ça, donc tes satellites vont moins vite.
Ça s'abîme plus vite.
Ils s'abîment plus vite. En fait, on va avoir un énorme sujet avec 100 000 satellites. Plus t'es haut, mieux c'est, mais t'as un vide absolu, mais voilà.
C'est pour ça que les satellites basse orbite ont une durée de vie très très courte par rapport à ceux qui sont
Faut de l'argent pour faire tourner tout ça, parce qu'il faut les changer régulièrement, les lancer.
Moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est aussi de voir si ça va pas te permettre d'avoir des récepteurs en fait plus petits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en mobilité, en fait, en LEO, des trucs qui sont assez gros. Donc en fait, quand est-ce que
tu veux dire l'antenne, c'est
l'antenne, si t'as un petit modem, une petite antenne qui commence à être plus basse,
brûle
parce
pas
que tu dois aller un peu moins haut, c'est quand même assez intéressant.
Et en fait, Elon Musk prédit que lorsque son satellite, enfin sa constellation sera mature, il y aura toujours au-dessus de nos têtes au moins 12 Starlink pour assurer les débits, les débits qu'il promet.
Avec une promesse, c'est le direct to cell, c'est le tacou, tu auras ça directement sur ton smartphone, tu n'auras même pas une antenne.
Tu auras la tête grillée, mais
c'est ça.
Ça t'entendra bien.
Bon. Ouais. Lui aussi, il va lui en falloir de la RAM, parce qu'à mon avis, sur ses satellites Starlink, 100 000, t'as intérêt à...
Surtout s'il veut mettre des data centres dans l'espace.
T'as intérêt à avoir les bons contacts chez Samsung, j'ai l'impression.
Malheureusement, encore au sujet où l'Europe...
Non, mais alors attends, tu sais quoi ? Dans Starlink, il y a du STMicro, vois-tu ?
Ah, bon, alors, okay. Mais USB micro, il y en a partout. Mais c'est à tellement faible valeur ajoutée que.
Mais voilà, malheureusement.
Ah, du STM32, il y en a absolument.
Non, parce qu'on avait partout. Le projet Iris en Europe, et puis en fait, il est en train d'avoir du plomb dans l'aile, les Allemands font faire leur propre truc, enfin, on n'arrive pas.
Iris carré, c'est ça?
Non, oui. Non, mais ce qui est dingue, c'est ça, c'est que ça fait quand même des années qu'on parle de Starlink, on parle, là, Léo, Kuiper, enfin, slash Kuiper, ouais. Tout ça. Les Chinois sont en train d'avancer, les Indiens sont en train d'avancer. Et nous, Iris carré, enfin, tu vois, on avait quand même OneWeb. Ouais. Iris carré, on a. L'impression que c'est, oui, vous allez voir, ça va arriver, non, tout ça. Alors, on connaît bien, je veux dire, Falacher, qui est un super, super nageur, et je pense qu'il se sert à ses cheveux sur plein de trucs, de régulation, de technologie, mais il est temps de, enfin, on se dit, ça accélère quand, quoi.
Bah, c'est pas un projet d'envergure tel que Starlink ou Kuiper, ou Léo. C'est clair. D'ailleurs, ça s'adresse même pas au grand public, hein, Iris Carré, hein. C'est vraiment pour les institutions, et pour certaines entreprises.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Tech & Co, la quotidienne, 20h33 en ce jeudi, c'est la dernière de la saison, et nous terminons cette émission bien avant le 14 juillet au feu d'artifice, avec Cédric Ingrand qui est là. Cédric qui est, rappelons-le, directeur général de Heavyweight Studio et journaliste tech. Jean-Baptiste Kampf qui est le fondateur de Kyber. Christophe Honnête, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France Asie du Sud. Et bien sûr, Frédéric Simotel. Les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Fred, on va pas commencer par toi. Parce que tous les soirs, tu as des coups de cœur et des coups de gueule. Donc là, on va écouter évidemment les tiens, mais laissons peut-être la primeur à Christophe Honnête. Christophe, ton coup de cœur pour débuter.
Ah ben, mon coup de cœur, en tout cas, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur à cette industrie que je trouve finalement assez formidable, parce que même s'il y a
c'est
beaucoup.
C'est l'industrie de la RAM.
Non, l'industrie de la tech, de l'IA, de tout cet écosystème qui est assez fascinant, qui nous occupe pas mal au cours de cette saison.
Ça, c'est clair.
D'une certaine façon, on a été monomaniaque avec Musk à un moment donné, puis monomaniaque avec ChatGPT. Et là, on voit que c'est considérablement animé parce qu'en fait, il y a un véritable bouleversement de la chaîne de valeur avec peut-être... On en a parlé tout à l'heure, les acteurs effectivement des processeurs et de la RAM qui sont bien établis et qui sont bien ancrés, on n'a pas trop de doutes. Mais au-dessus, les LLM, le logiciel, les agents, les acteurs de l'intégration, du conseil, à chaque étage, il y a des challenges. Et il y a plus de, il y a des positions évidemment fortes, plus fortes les unes que les autres parce qu'ils ont les poches plus ou moins profondes. Mais on voit que ça tangue. Il y avait un article dans The Information aujourd'hui qui était assez intéressant où il montrait à quel point tous les acteurs, ils cochaient les cases de tous les business qu'ils avaient. Tous les acteurs se mettaient à faire un peu le business des autres parce qu'on est dans une phase aujourd'hui d'incertitude en se disant finalement, il y a un bouleversement de la chaîne de valeur. Où va être captée cette valeur? Par qui? Est-ce que un Palantir dit bah finalement vous n'avez plus besoin de logiciel, vous embêtez plus, vous prenez de l'IA et puis ma plateforme et je vous développe ce que vous voulez. On voit aujourd'hui, moi je vois dans beaucoup de petites entreprises, moyennes entreprises, des gens qui au cours d'un week-end développent un nouveau CRM, ils se débarrassent de Salesforce, HubSpot. Il y a une énergie créatrice. Ça va créer beaucoup de bazar. Il y a de la scalabilité, de la sécurité, plein de problèmes.
C'est un peu comme l'arrivée du PC en son temps.
Voilà, on a une sorte de foisonnement.
Non, mais c'est vrai.
On a une sorte de foisonnement, je trouve, assez enthousiasmant et à observer et de se dire finalement comment. Parce que la valeur, au bout du compte, ce sera celui qui captera la valeur vue du client. Et la course est ouverte et je trouve ça fascinant et je me réjouis de pouvoir participer au travers de nos discussions à ces réflexions.
Et on est surtout tellement heureux de t'avoir régulièrement, Christophe.
Il n'y a pas de ligne d'arrivée en fait, en plus.
Non, c'est clair. C'est clair. Alors, c'était très positif quand même, le coup de
cœur.
On est d'accord. Ben, vous savez quoi, on va écouter celui maintenant de JB, qui d'habitude est un peu ronchon, vous savez. Ben, après, bon, on verra son coup de gueule après, cela dit. Mais là, tu veux nous parler de cet élan de positif de la tech française souveraine.
Ouais, exactement. Moi, je suis quand même positivement surpris. Moi, j'ai l'impression que je parle de souveraineté depuis 15 ans, tu vois. Et ça part dans tous les sens, c'est clair. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a déjà pas mal de petites boîtes de logiciels, d'éditeurs qui se réveillent alors que ils s'étaient pas trop bougés pendant très longtemps, ils étaient un peu plan-plan, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis énormément de moi ce que j'appelle avec quelques-uns de mes copains French Tech 2.0, c'est-à-dire des gens qui font de la tech quoi. Et on est vraiment pas à la limite de la deep tech, on y va, on ose, on fait des trucs de plus en plus compliqués, que ce soit Amilabs, ZML, Kyber, Huma, etc. On y va sur des gros bêtes. On a l'INRIA qui a l'air d'être quand même hyper forte, à spin-off plein d'idées, des maestros, des choses comme ça. Donc il y a une vraie, nouvelle vague de je fais des vraies entreprises tech et pas je mets de la tech dans une des verticales et j'enlève tous les intermédiaires pour faire un SaaS. On l'a vu, ok, c'est très cool, mais on voyait un peu que ça, et la French Tech, c'était que ça. Et là, on fait de la tech française, et je suis assez content de le voir. D'ailleurs, aussi, un petit truc un peu rigolo, c'est qu'il y a quand même, ça bouge beaucoup à Paris, alors qu'habituellement, en fait, tu disais quand même que les startups, c'était quand même pas Londres et Berlin. Bah, là, en fait, c'est quand même pas mal Paris et Munich, quoi. Donc, c'est, je trouve, et des ingénieurs qui y vont, quoi. Et ça, ça, c'est cool.
C'est plutôt positif, non,
c'est
tout ça.
Positif. Bah, tu me demandes un coup de cœur.
Non, mais t'aurais pu dire, je sais pas, moi, l'IA, c'est génial, etc. Là, c'est, en plus, c'est très positif ce que tu dis et plein d'optimisme pour la suite, en tout cas. Bah, parce que c'est vrai que.
On a un an de la présidentielle, donc on va être positif.
Ouais. Non, mais.
Okay.
Après, il faut de l'argent. Et qu'est-ce qui est, à ton avis, qu'est-ce qui est différent depuis 12 mois d'avant, finalement?
C'est pour moi en fait c'est un changement de culture et un changement de mindset qui est en fait finalement bah tu vois c'est ta deuxième génération d'entrepreneurs, tu vois. C'est-à-dire que tu vois d'ailleurs arriver avec des investisseurs français, des clubs d'investisseurs qui sont principalement des gens en fait qui ont déjà fait de l'argent dans la tech.
C'est plutôt la deuxième génération d'investisseurs.
Et tu vois, c'est des gens qui ont fait une exit, mais tu vois, je vais pas donner de nom, mais tu vois des gens que Color, Datadog, Dataiku, des gens qui sont partis, qui ont fait des exits ou pas, qui ont fait du secondaire et qui réinvestissent. Et eux, c'est des entrepreneurs et pas mal. Et ils croient à la tech et ils voient que la tech est un différenciant. Donc investissent dans des choses un peu plus tech. Voilà. Et puis autour des écoles, je trouve pas mal des écoles d'ingénieurs et au sens large, hein, pas au sens français, mais au sens tous les gens qui font de l'informatique, des maths, etc. T'as plein de gens et on leur donne des exemples. Regarde, lui, il a été ingénieur, il a vendu, etc. Et c'est pas juste énième fois un HEC qui arrive et il cherche un CTO. Là, c'est le CTO qui va. Non, mais c'est hyper important. Tu regardes les entreprises de la tech américaine, à part Oracle, qui est la pire boîte au monde.
Je confirme.
C'est tous des techs. Tu vois? C'est tous des techs. Ils ont tous une base tech, tu vois. Et ils reviennent, et Google y revient, et puis Satya y revient. Et tu sens qu'ils aiment ça. Ils aiment faire des choses différenciantes. Or, la vraie valeur, elle est sur des choses où tu bouges l'état de l'art parce que tu as un vrai différenciant.
Ouais. Cédric Ingrand, son coup de cœur. Alors, vous allez voir, moi, quand je l'ai lu, j'ai dit waouh.
Mais oui.
Incroyable.
Non, en fait, je me suis posé une question différente de la vôtre. Vous êtes sur les trucs très systémiques et c'est très bien. Moi, j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit
qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas de nouveau, mais qu'est-ce que j'ai utilisé cette année que j'utilisais peut-être pas les années précédentes ou avec plus de plaisir? Et j'ai trouvé une app. Pas beaucoup, hein, parce que maintenant, on est tous vieux, on a des habitudes, on utilise toujours les mêmes trucs. Il y a peu d'applications vraiment nouvelles et intéressantes que j'ai pu utiliser cette année en dehors des LLM et du reste. C'est Threads. Et alors, je vais dire, tu peux pas me soupçonner d'être amoureux de Meta. Il y a peu d'entreprises au monde que je méprise plus que Meta. Une entreprise absolument malfaisante.
Mais tu te fais du mal alors, finalement.
Pourquoi Threads? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que X Twitter est devenu complètement toxique. Blue Sky, c'est devenu juste l'endroit des gens qui disent, vous avez vu, on n'est pas sur X Twitter. Ça peut pas être ta seule qualité. Tu vois ce que je veux dire?
Ça sur LinkedIn.
Ça réduit la discussion.
C'est un peu comme l'enseigne ici, pas comme en face, tu vois. Oui,
ouais, bon, d'accord. Ok, d'accord, mais bon.
Et moi, un jour, je suis allé sur 13 comme ça, quand ils l'ont lancé après 2023-2024. Au début, il fallait l'attacher à ton compte, à ton compte Insta, ce genre. Bon, depuis, ça s'est arrangé. Et alors, je pense que Threads est une plutôt bonne application. D'abord, parce que les gens qui y vont souvent, ils sont sous leur vrai nom, parce que c'est le nom hérité de leur compte Meta, Facebook ou autre chose. Donc, les gens écrivent moins de bêtises. Et puis aussi, je pense que c'est parce que Zuckerberg a oublié qu'il avait Threads. Donc, en fait, tant qu'il s'en occupe pas, tout va bien se passer.
Mais tant qu'il dépense ses dizaines de milliards dans l'IA,
oui, c'est
Threads
ça.
Pour lui...
C'est ça, et c'est devenu un truc un peu civilisé. C'est pas comme un clone de Twitter, c'est ça, et puis c'est un peu Reddit aussi sur les forums, c'est-à-dire que c'est moins politique que le reste, c'est plus... tu peux vraiment te recréer un cercle, je dirais pas d'amis, mais... voilà.
Donc tu vas sur Threads.
J'y vais tous les jours.
Ok.
Mais sans être forcé.
Non, mais alors que j'ai beaucoup moins
comme
sur...
Comme il est tout seul, il est tranquille.
C'est pas vrai, il y a plein de gens très bien.
Non, mais c'est rigolo parce que moi qui suis plutôt sur Insta...
Ah oui, mais bien sûr, énormément.
En fait, quand tu es sur Insta, et rappelons que Threads appartient au même groupe qu'Insta, Insta te pousse à aller sur Threads de manière presque...
Ah bon
ouais. Moi, chez moi, c'est dingue. Tu vois, par exemple, dans mon fil d'actualité Insta, parfois, je vais dire, bah tiens, Frédéric Simotel a écrit ça sur Threads. Ah, tu dis, waouh, je clique, parce que ça doit pas être l'IA de Fred, c'est vraiment Fred. Paf, je clique et j'arrive sur Threads. Enfin, pour et après, dire, tu commences à scroller sur Threads.
Et là,
Threads.
Je trouve Cédric un grand.
Et là, je retrouve Cédric un grand.
Pour te dire, moi, j'ai l'impression que c'est Threads qui essaie de me pousser à aller sur Insta. Je pense que
les algos
sont assez perméables.
Tu vas sur Threads ou pas?
J'ai testé, mais au tout début.
Et puis t'as laissé tomber.
Voilà. Bon, pour moi, c'est absolument horrible. C'est comme Twitter. même si c'est vrai que j'aurais pu trouver un autre coup de gueule cette année. C'est oui. LinkedIn, quoi. LinkedIn.
Alors attends, mais non. Ah, attends, on n'est pas encore au coup de gueule.
C'est que, mais c'est pas le mien. Mais c'est vrai que tu vois, enfin, les réseaux sociaux.
Si, écoute, si t'es gentil, qu'on a assez de temps, tu pourras avoir tes deux coups de gueule.
Non, mais c'est pas ça. Ouais. C'est qu'en fait, sous ces réseaux sociaux, c'est trop fake. C'est vraiment trop fake, quoi. Donc, tu vois que le bon des gens ou ce qu'ils veulent bien te raconter. Et moi, si je peux en faire moins, je me porte mieux.
Fred,
moi, c'est
ton coup de cœur.
Oui, moi, mon coup de cœur, c'est je commence à entendre un peu de l'IA bashing, de dire ouais, mais l'IA, ça sert à quoi, etc. Et tout ça. Et donc, moi, je voulais rappeler que l'IA, quand même, au service des scientifiques et des chercheurs, c'est un outil absolument incroyable. On a Donald Knuth, qui est un grand mathématicien.
Pardon ?
Donald Knuth.
Donald Knuth.
Okay. Qui est un des grands mathématiciens. Il a été prix Turing. Et lui, croyait...
On voit pas ce
monde diplomatique, en grand, là, depuis ce matin, tout le monde déteste l'IA.
Bah voilà, tu vois. Et moi, c'est un peu remettre tout ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, bah, ces chercheurs, donc je parle de Donald Knuth, il est arrivé il a 88 ans, il a fait des recherches en mathématiques depuis toujours, prix Turing et tout ça, et là, il est arrivé à résoudre des équations qu'il avait dit de mon vivant, je pensais que j'aurais jamais résolu.
Tu te rends compte, pour un gars comme ça, le Graal le plus total.
Et il a dit, c'est une révolution complète de la façon dont je vois les mathématiques.
Mais quand tu discutes avec des chercheurs, notamment en médecine,
ce qui
est en train d'arriver là.
Ce qui leur manque à tous, c'est de la data. Ils n'ont pas suffisamment de data, mais on voit quand même, si un jour on a des médicaments moins chers, si un jour on comprend mieux le fonctionnement de la Terre, notamment avec tout ce qui se passe, les canicules et tout ça.
Des médicaments moins chers et plus efficaces, avec des traitements plus ciblés.
Meilleure compréhension de l'univers. Si on a une énergie plus propre, c'est grâce à l'IA, tout ça. Et aujourd'hui, alors, en astronomie, en physique, des outils quotidiens pour les chercheurs. Alors, attention, hein, tout n'est pas merveilleux. Hein. Il y a des biais. Parfois, je me souviens toujours d'un chercheur de l'ENS qui me dit un jour, l'IA me résout une équation. Je dis, c'est incroyable. Comment je n'ai pas compris. En fait, l'IA, elle avait fait comme un élève un peu malin. Elle a dit, tiens, toutes les conditions pour faire l'équation, il y en a une, elle m'embête vraiment. Je la zappe et puis j'y arrive. Et lui, il dit, c'est incroyable. Elle y est arrivée. Et quand il a remonté le raisonnement, il dit, ah bah oui, il m'enlève la condition, moi aussi j'y arrive. Mais voilà, donc il y a quand même quelques biais, il faut faire attention sur l'éthique, etc. Mais voilà, de dire, je ne savais pas qu'ils avaient sorti ça aujourd'hui, mais de dire voilà, l'IA, alors oui, relation client, ça marche moins bien, on a les cas
mais dans les mathématiques et la recherche, c'est formidable.
La recherche, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était mon coup de cœur.
Alors, on passe au coup de gueule maintenant, les amis, attention, Christophe. Ton coup de
gueule.
En fait,
il est un peu lié à ce que tu viens de dire, et je partage tout à fait ton point de vue sur les avancées, notamment en médecine, en prévention, etc. Et je pense que effectivement, à la lumière aussi de ce que Jean-Baptiste dit sur la une du monde diplomatique, je crois que moi j'ai un coup de gueule par rapport au AI washing qui a pu être largement utilisé, notamment le fait qu'un très très grand nombre d'entreprises ont utilisé l'IA comme une bonne excuse pour expliquer un certain nombre de licenciements, alors que elles avaient des résultats qui étaient pas bons, et qu'on sait très bien que avant qu'on ne puisse, parce qu'en observant la réalité de ce qu'est la mise en œuvre des outils IA dans les grandes entreprises, avant qu'on ait une capacité à supprimer des postes, il y a une vraie réflexion holistique, il faut repenser les process, ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'était une excuse un peu facile qui a, je pense, créé une grosse inquiétude
bien sûr
sur le marché. Une
et qui a rendu encore plus impopulaire l'IA. Voilà. Parce que ça. Les gens se disent, regardez, là, on a vraiment des exemples complets d'entreprises qui licencient grâce ou à cause de l'IA.
Voilà, et donc ça crée une animosité qui est aussi alimentée par cette fascination qu'on a pour l'outil, mais on se dit, ah ouais, il est quand même capable de faire des choses, alors qu'il y aurait plutôt un travail beaucoup plus important à mener de dire finalement en quoi ces outils-là vont pouvoir aussi vous aider, faire votre travail différemment et repenser, enfin voilà, avoir un discours un peu plus positif. Et quand au même moment, on voit effectivement les milliards de dollars couler sur les États-Unis, l'introduction en bourse de SpaceX qui a créé 4000 millionnaires dans la Silicon Valley, qu'on discute avec des gens là-bas, on a vraiment quand même l'impression que cet argent, en fait, il est quand même capté par un nombre très limité de personnes, et qu'on a quand même une responsabilité aussi, c'est de se dire en quoi cette productivité, ces financements vont permettre aussi de développer des entreprises et de faire en sorte que toute cette valeur soit pas uniquement captée par le top 1%. C'était le moment un peu socialiste, ce qui m'arrive pas souvent, en l'occurrence. Je trouve qu'il y a un danger qui peut faire en sorte qu'on ait des unes comme celles que Jean-Baptiste mentionne et qui seraient très contre-productives. Donc on a aussi cette responsabilité-là.
Voilà le coup de cœur de Christophe qui, naturellement, peut s'enchaîner avec celui de Cédric. Finalement, puisque...
Moi, je vous trouve quand même d'une mansuétude presque suspecte. parce qu'il faut le dire, enfin... Moi, mon coup de gueule, c'est de l'hallucination, l'hystérie collective autour de valorisation de choses qui, je dirais pas qui ne valent rien, parce qu'on voit qu'il y a de la valeur d'usage à toutes ces choses, mais à aucun moment, personne n'arrive à faire la règle de trois entre ce que ça fait, ce que ça vaut, le service que ça rend et ce que ça peut rapporter. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des entreprises, je parle des géants des LLM et des autres, qui investissent ou annoncent investir ou cherchent de l'argent pour l'envoyer, mais à fournée entière, dans des investissements d'infrastructures à venir. Parce que, rappelez-vous, hein, toutes les annonces qu'on vous a faites en 2023, les data centers, ils sont pas encore ouverts quasiment. Tout ça pourquoi? Pour justifier une valorisation boursière qui n'a pas d'autre sens. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, tant que c'est des gens, tu vois, qui sont dans leur bac à sable, en train de se mesurer le zizi pour savoir qui a la plus grosse, etc., c'est pas très grave. Le problème, c'est quand ça vient percuter l'économie réelle. L'économie réelle, c'est le prix de mon prochain iPhone. L'économie réelle, c'est évidemment toutes les entreprises qui vont avoir du mal à développer des trucs. Parce que
c'est l'énergie.
Il y a l'énergie. Alors nous, on est moins percutés par l'énergie.
Non, par exemple, aux États-Unis, on que ça pouvait avoir un impact.
Oui, mais ça leur apprendra à pas savoir faire de l'infrastructure.
Ouais, c'est clair.
Si
ouais,
mais bon, voilà. Mais et tout ça pour un truc qui finalement tourne presque dans le vide. Et on voit des annonces. Quand Meta annonce, je vais mettre, je sais pas combien, 34, 54 milliards, etc., dans de l'infra. Et que dans le même temps, tu vois ces géants qui créent de l'infrastructure et qui tout à coup le louent aux autres. Mais alors, pourquoi l'ont-ils construite? Ils l'ont pas construit pour le louer à Anthropic, à OpenAI et aux autres. Donc il y a un problème. Moi, je vous dis, quand Meta va annoncer un de ces quatre matins que finalement, tout ce qu'ils ont de nouvelles infra, ils vont le louer à Anthropic, à un moment, tout ça va décrocher. Oui. Et le problème, encore une fois, je l'ai déjà dit à ce micro, c'est que ces entreprises sont arrivées, je parle pas de OpenAI et des autres, sont arrivées à des niveaux de valorisation tels qui représentent quoi? 40% du S&P 500 aux États-Unis, donc 20% de la valorisation de toutes les sociétés cotées dans le monde. Ça veut dire que là encore, on va percuter le monde réel. Et c'est comme si on n'avait rien appris. Souviens-toi, il y a 25 ans, je parle à Fred, quand tout à coup, on s'était mis à faire de la surcapacité sur Internet. Cisco, tous les autres, etc. Ouais. Et là, ça a été terrible. Les télécoms, ils peuvent ressortir tous ces vieux dossiers avant qu'on les mette dans le modèle de Jean-Baptiste.
Ne me le chauffe pas trop là-dessus, s'il te plaît.
Et le toit synoptique.
Voilà, et on sait ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai, on sait que quand tu fais de l'infrastructure, tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu en as fait
trop. Fait,
ouais. Il faut en faire un peu trop pour s'apercevoir quand tu en as fait trop. Mais là, on le sait, on le voit. OpenAI, Anthropic et les autres, c'est quoi? C'est 2-3 gigawatts d'inférence, et on nous annonce qu'on va faire 100 gigawatts de... Enfin, ça n'a absolument aucun sens.
Ah non, mais franchement... Non, mais c'est totalement d'accord avec toi, et c'est très très clair, très bien expliqué.
Non, mais ce qui est génial et qu'il dit pas assez, c'est les investissements circulaires.
Bien sûr.
Oui. Alors oui.
C'est parce que là-dedans, en plus, il y a de l'investissement circulaire.
Oui, bien sûr.
Mais Oracle qui est
de. Je dirais presque l'investissement consanguin.
Non, bah, c'est circulaire parce qu'en fait, c'est véritablement à la fin, t'as Nvidia qui investit dans des entreprises qui vont racheter du truc, qui vont racheter du Nvidia.
Oui. Ça ménage à trois. Hein, c'est
Oracle achète du Nvidia pour faire du OpenAI qui rachète et aussi les locations de serveurs qui sont aussi un autre.
Ouais. Donc 2026-27, la bulle ou pas?
Ça va exploser. À un moment, il y en a un qui va éternuer et tout le monde va s'enrhumer. Je
pense pas que ça explosera.
JB dit non.
Non, mais j'ai déjà dit à ce micro, moi, ce que je pense qu'il va avoir, c'est ça va être une explosion très douce de la bulle qu'on va pas, tu sais, comme quand t'as une chambre à air qui est juste légèrement crevée, qui se dégonfle un peu. Et tu
mais c'est pas le ballon qui explose.
Non,
quoi.
Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ces grosses sociétés, elles vont faire des downturns qu'elles vont cacher par des micmacs comptables et
peu avouables.
Et du Hollywood accounting. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein d'autres startups qui vont se faire racheter. Donc, tu vois, t'as plein de gens, tout l'écosystème, une façon, tu vois, un jour, on pourrait faire une demi-heure sur comprendre les analyses de rachat de boîte et du prix du rachat de boîte et quel est le vrai prix, hein. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a une partie, t'as le VC qui allait appeler en disant il faut que tu récupères ça, etc. Et c'était la spécialité. Donc
et, le rachat et l'assèchement, aujourd'hui aussi des fonds.
Et l'assèchement des fonds.
Donc voilà.
Donc, pour moi, c'est assez important de parler de ça. Moi, je vois pas une explosion à la subprime.
Mais par exemple, dis n'importe quoi, Nvidia qui pourrait racheter OpenAI, quoi. Toi, tu vois un truc comme ça.
Non, mais tu vois, OpenAI qui va se sentir obligé de devoir, par ses investisseurs, acheter quasiment toutes les autres petites boîtes qui ont eu des valos complètement délirantes. On parlait d'Eleven Labs tout à l'heure, par exemple. Et parce qu'en fait, ils ont les mêmes investisseurs, et l'investisseur, pour pouvoir justifier son fonds, va te dire, attends, s'il te plaît, tu viens récupérer ça, etc. Et donc, tu vas en fait avoir... Parce qu'il y a pas mal de il y a quand même beaucoup d'investissements, hors les grands. Hein, tu enlèves les grands, tu as quand même plein d'investissements en plein de trucs. Et là, moi, je vois bien que tu auras une certaine concentration que tu vas avoir. Et puis, tu vas avoir...
Mais est-ce que les anthropiques... Les OpenAI, etc., resteront. Il peut y avoir plusieurs acteurs comme ça à terme.
Bien sûr.
Bien sûr.
Ok.
Ça va être compliqué. Parce que en face, ils ont du Google, du Microsoft, qui eux ont déjà utiliser de l'infra.
Je pense que ça va être.
Et n'oubliez pas, tous ces gens qui s'introduisent en bourse, c'est d'abord que pour que vous alliez payer leurs investisseurs.
Non, mais ils peuvent faire s'écouler parce que justement, il y a ce côté circulaire. Pour l'instant. Et dans la circularité, tu as toujours un Nvidia, un Oracle, un Microsoft, un machin qui maintient tout ça, qui maintient la roue, le mouvement de la roue.
Le mouvement de la roue.
Exactement.
JB.
Les boîtes françaises, elles se bougent pas assez?
Aïe, aïe, aïe.
Les grosses boîtes françaises.
Ça avait bien commencé. Hein,
ah ouais, mais là, franchement, tu vois, il y a une énergie, il y a des startups, il y a plein de choses, il y a des trucs qui sont des vrais trucs. Et là, franchement, quand tu vois, pour avoir vu pas mal du côté de Scaleway, la consommation des grosses boîtes du CAC 40 dans l'IA et même dans la tech, c'est d'une timidité absolument hallucinante. Tu pouvais le justifier il y a quelques années. Maintenant, tu peux pas. Enfin, j'ai encore des gens qui m'ont expliqué que non, les Américains ne peuvent pas espionner tes données. C'est inadmissible. 15 ans après Snowden, 20 ans après Wikileaks, et là, on le sait, Cloud Act, Patriot Act, FISA 702, et tu dis, oui, non, mais tu comprends. Et mon coup de gueule, évidemment, Bleu, Sense, et ces autres trucs comme ça. C'est inadmissible.
Ça sert à rien, tout ça?
Non, mais surtout, c'est de la... Ah, je suis pire que ça, pour moi. C'est de la traîtrise, vraiment. C'est-à-dire que, vraiment, c'est abusé. C'est
inadmissible. Alors, rappelons ce que c'est. Hein, ce sont ces clouds.
Mais qui... c'est même pas juste ça. L'achat.
Non, mais tu parles de Bleu et de Sense.
Oui,
c'est
du Google déployé sur des infrastructures soi-disant souveraines.
Française.
Voilà, ou c'est la même chose avec.
Opéré par Thales pour Sense, et puis.
Et la même chose avec Azure, et le troisième, c'est Amazon qui te dit qu'ils font des trucs souverains. Enfin, ESSH, ils passent les frontières. À un moment, quand tu mets une backdoor, etc. Mais c'est même en général, tu vois, t'as encore des grosses boîtes françaises qui utilisent Palantir. J'ai entendu que l'Espagne allait interdire l'utilisation de Palantir. C'est évident. Enfin, comment tu continues à faire ça? On est encore sur des déplacements très très mous et notamment j'ai pas mal de boîtes du CAC 40 qui viennent me demander qu'est-ce que tu ferais, et moi la première question c'est est-ce que ton CTO il est à ton board ou à ton COMEX? Il me dit, mais ton DSI, tu veux dire? Non, non. Je parle bien, déjà. Déjà, il y en a plein qui ont même pas leur DSI okay. au niveau du board. Et là, non, je te dis le CTO. En fait, tant que tu verras l'informatique comme un centre de coût et pas un centre de valeur et de gains et de gains incroyables.
Tu t'en sortiras pas.
Tu t'en sortiras pas. Donc, tu vois, et je peux le dire quasiment à toutes les boîtes du CAC 40, même si je les connais pas toutes.
Moi, je te dirais sauf quelques industriels. Je vais les citer. General Electric, Sanofi, Michelin. Okay. J'en ai un quatrième qui est le.
Ouais, mais bon, c'est vrai que. Bon.
Mais qui eux ont un vrai. D'ailleurs, les CIO sont au board et qui sont vraiment.
Eh ben, tu vois, Schneider Electric, ça aurait pu être un coup de cœur. Tu vois, si on avait eu le droit de. Tu vois, c'est une boîte que je connaissais assez peu et cette année, et sur les deux dernières années, j'ai pas mal regardé.
Le coup de gueule de Fred.
Donc mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est
tous ces objets, dont on fantasme l'existence.
On est toujours en train de dire, et Johnny Ive, qu'est-ce qu'il va penser et tout ça.
Le pendentif, la boucle d'oreille.
Le pendentif, le badge et tout ça. J'ai dit, mais arrêtez, les objets sont déjà sous notre nez. Ça va être une montre, ça va être des lunettes, ça va être des écouteurs. Et ça, pour moi, ça va s'arrêter là.
Les bagues.
Les bagues. Mais si tu veux, faut arrêter de penser. On est toujours en train de dire, ça va être quoi le nouvel objet et de dire, arrêtez de nous balader. Parce que ils sont tous en train de nous dire, là on a vu la pub Friends dans le métro, ils sont tous en train de nous balader en nous disant ça va être le truc incroyable, on sait pas ce que c'est, mais ça va être une sorte d'enceinte ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai envie de dire, attendez, on a suffisamment de recul aujourd'hui, un peu d'expérience pour dire non, alors soit à moins de nous implanter un truc dans le cerveau, la nouveauté ça va se tourner autour des lunettes. Ça va être autour des lunettes, autour des écouteurs, autour d'une montre, autour d'une bague. Voilà, le futur device, il est sous notre nez, voire le smartphone qu'on continuera toujours.
Cédric, t'es d'accord ou pas?
Avant qu'on conclue, Moi j'ai un coup de cœur.
Un dernier.
Mon coup de cœur, c'est Jean-Baptiste Ockham.
Oh, c'est gentil.
Non, mais les gens qui le connaissent pas le voient avec son expertise, sa connaissance, etc. Ce garçon.
Ah oui.
À l'échelle du software en France, c'est Mbappé, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ce garçon, il a 6 milliards de téléchargements sur
avec
Internet
VLC,
au travers de VLC.
C'est un
trésor national. Mais au travers de lui, il y a tous les gens qui font l'open source en France et qui ont non seulement le degré d'excellence qu'on connaît chez les ingénieurs français, mais l'éthos qui va avec. Et ça, je trouve ça.
C'est très gentil. Je vous conseille d'écouter le De quoi je me mêle, où on a parlé de l'histoire de VLC il n'y a pas très longtemps.
Exactement.
Dans le plateau d'à côté.
Mais c'est vrai.
Et sans compter Kyber aujourd'hui. Oui, mais. Je t'avoue qu'ici même, hier soir.
C'est ta fête, ce soir, t'as vu?
Non, mais ici même, hier soir. Mais je me mets on avait des gens sans leur dire que tu étais là aujourd'hui. Et tout d'un coup, ils se sont mis à parler de Kyber. Enfin, on était hors micro, je crois. Ils commençaient à parler de Kyber. Et
en fait, il y a plein de mecs bien meilleurs que moi en France. Et il y a des gens dont on ne parle pas assez. Et des vrais génies comme Fabrice Bellard, par exemple. Des choses qui se passent et plein d'autres choses.
Franck Pierre, le patron de la Miade.
Voilà, il y a plein de
risques. Le mot de la fin juste. Merci alors à vous quatre, mais merci à la cinquantaine de débriefeurs qui, tout au long de l'année, dans Tech & Co, chaque soir, apporte son expertise, son analyse, l'actualité aussi dans la tech. Et franchement, je crois que c'est ce qui fait la richesse de cette émission. Alors évidemment, JB, Cédric, Christophe, Fred, mais aussi tous les autres. Et voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'on sera là, on repartira de plus belle à la rentrée. La rentrée, ça sera le 24 août.
Oui.
19h30, 21h, on sera là, peut-être quelques petites modifications, en tous les cas, la ligne éditoriale sera la même. Merci beaucoup à tous les quatre, merci
bonne
Cédric,
vacances,
JB, Christophe et Fred.
Et coup de cœur à tous ceux qui nous mettent des commentaires, et allez-y, parce que ça nous enrichit aussi.
Bien sûr,
toutes les commentaires.
Les commentaires, vous pouvez les laisser sur YouTube. Je vous rappelle que chaque jour, le replay de Tech & Co est sur YouTube. Et donc, c'est plutôt cool. Allez-y, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on les lit, vos commentaires. Belle soirée à tous, bonnes vacances, profitez-en bien. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver quand même, malgré tout, la semaine prochaine, pour un dernier petit De quoi je me mêle avant la plage. Voilà. Très belle soirée, à très vite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.